Parrain présente Vue du banc avec Christophe Puchli, Raphaël Cosmidis et Florent Tenuti.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 26e épisode de la saison 9 de Vue du banc, un épisode qui sera consacré à la Ligue 1. Le premier des deux épisodes bilan de fin de saison de la Ligue 1. Au départ, on pensait faire ça en une seule édition, on savait pas trop comment l'anglais. Et finalement, on a trouvé, on va faire ça façon conseil de classe. On va d'abord commencer par les mauvais élèves, la partie de la 11e à la 20e place du classement. Pour parler de tout ça, Florent Tenuti. Bonjour Florent.
Salut Christophe, salut à tous.
Et Raphaël Cosmidis. Bonjour Raphaël.
Salut Christophe.
Messieurs, on va faire ça de manière très simple, on va commencer par la 11e place, on va aller jusqu'à la 20e, épisode enregistré le jeudi 12 mai 2022, pour ceux qui nous écoutent avec un petit décalage, il y a donc 36 journées qui ont été disputées au moment où on enregistre, donc du coup on ne connaît pas encore les relégués par exemple, il y a des places qui pourront bouger si vous nous écoutez après la journée de samedi soir, mais de manière générale, alors ça changera forcément le destin des clubs, ça ne changera pas de manière générale l'avis qu'on peut avoir sur la globalité de leur saison, même si forcément un maintien arraché sur le fil changera pas mal de choses, mais c'est vrai que là sur 36 journées il y a quand même beaucoup de choses à dire sur certaines équipes, un peu moins sur d'autres, et sur celles où on va débuter. Florent, Brest 11e, 3 points de retard au moment d'enregistre sur Lille 10e, 5 d'avance sur Reims 12e. L'impression que finalement c'était peut-être la seule équipe du milieu de tableau avec Montpellier sur le ventre mou depuis pas mal de temps, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui avaient des choses à jouer soit en haut soit en bas. Quelle est ta mention pour Brest et le petit commentaire qui l'accompagne? C'est vrai que c'est une équipe dont j'ai l'impression que passer sa série de victoires qu'il a vraiment replacée après des débuts compliqués, bon, la saison s'est faite pas dans l'indifférence générale hein, mais sans enjeu incroyable.
Ouais, précisons juste que l'avantage entre guillemets de faire ce bilan, ce conseil de classe maintenant, c'est que on va pas forcément être biaisé par objectif atteint ou non. Donc on peut rester sur le contenu et ce qu'on a vu tout au long de la saison, même si évidemment l'objectif atteint, ça permettra de booster certaines appréciations peut-être. En tout cas, ça les aurait peut-être faussées. Pour revenir sur Brest, tu compares à Montpellier, parce que c'est vrai en effet que ce sont les deux équipes de milieu de tableau, il y a Reims aussi. À la différence près, je pense que Brest avait démarré très très mal. C'était une catastrophe en début de saison, et c'est vrai que comme tu le disais, il y a eu leur bonne série qui les a replacés. Moi, alors évidemment, on n'a pas tous vu tous les matchs de Brest tout au long de la saison, mais je suis peut-être toujours tombé sur les bons matchs, parce que c'est une équipe, on va dire, j'ai envie de dire que si tu veux dire c'est quoi une équipe moyenne de Ligue 1, en plus ils sont 10e donc c'est parfait, mais c'est Brest, c'est-à-dire bloc médian solide, qui peut parfois sortir pressé, mais qui va plus attendre, faire mal en transition. Ils ont des joueurs qui sont faits pour ça. Et finalement, je vais vous donner mon appréciation. J'ai mis maîtrise des fondamentaux, même si on aimerait plus d'implication dans les matières plus créatives. Voilà, voilà pour l'appréciation de Brest. Alors, c'était la seule où j'ai fait quelque chose d'aussi poussé.
Mais oui, il ne faut pas que les gens s'enflamment et imaginent qu'il y aura des appréciations aussi poussées, aussi créatives pour tout. Hein. C'est à tout donner pour le début, pour qu'il reste.
C'est ça, c'est ça. Il y a quand même des joueurs qui ont pu éclore cette année. Raph pourra mieux en parler, mais Agoumé, par exemple, au milieu, qui s'est imposé. J'ai bien aimé la saison d'Honora aussi, qui se dévoile et qui confirme un petit peu. Devant, ils sont allés chercher Satriano, qui est intéressant sur la deuxième moitié de saison. Donc, je les trouve malgré tout intéressants. C'est-à-dire, autant on va parler d'autres équipes, si je tombe sur un match 2, je vais faire « ouais, super ». Par contre, Brest, ça peut bien tourner. Généralement, ça tourne assez bien, je trouve.
Raphaël, quel est ton avis sur cette équipe de Brest? Je ne sais pas si à chaque fois tu auras des appréciations, si tu commenteras celle de Florent, de manière générale, entre les attentes du début de saison, le contenu, les points, l'évolution, où est-ce que tu te situes?
Déjà, il faut se souvenir que la saison dernière, c'est une équipe qui se sauve à la dernière journée, Brest, qui finit 17e avec 41 points, et qui se sauve parce que Nantes ne prend pas de points sur son dernier match, sinon tu avais pris un point, Brest aurait été barragiste. Et c'est une donnée importante quand même. Il y a eu le switch d'Aloglio d'Erzac qui anime beaucoup en ce moment d'ailleurs les supporters des deux équipes. Et c'est vrai que ça a mal démarré, mais il y a ce côté, comme l'a dit Flo, un peu équipe classique de Ligue 1, fonctionnelle, qui n'est jamais ridicule. Ça, c'est quand même une donnée importante. Alors que pourtant, il y a des équipes ridicules en Ligue 1 cette saison. Et puis après, sur le plan individuel, on en avait un peu parlé sur la partie trophée NBA de Ligue 1, des joueurs qui soit se sont révélés, soit ont confirmé. Alors dans les révélations, il y a Agoumé. J'attends d'en voir plus, même s'il y a des vraies qualités, mais je pense que dans l'utilisation du ballon et dans la variété dans le jeu, il peut progresser, mettre un peu plus de rythme aussi. Et puis il y a Onora qui fait une super saison, avec la variable d'ajustement Satriano qui est arrivé cet hiver pour jouer devant. Je pense qu'il y a quand même quelques déceptions parmi les joueurs qui ont débarqué ou les joueurs qui sont au club. Je trouve que les attaquants font pas une grosse saison, par exemple. Le Doiron, Mounier, c'est des saisons assez moyennes qui sont proposées, mais malgré ça, et malgré le départ de Fèvre au mercato d'hiver, Brest s'est maintenu tranquillement et honorablement avec quelques top matchs, parfois très chanceux, mais le match contre Lens avait été très bien payé, par exemple. Bon, je pense que vous vous souvenez du 4-0.
Oui.
Et c'était quand même un temps fort de la saison, mais voilà, il y a des joueurs qui ont un peu disparu. Cardona, on ne le voit plus jouer. Del Castillo, c'est moyen. Le Doiron, c'est moyen. Des joueurs qui se sont blessés aussi. C'est une équipe qui joue avec Jean-Kévin Duverne quand même au poste de latéral assez régulièrement, et en plus droitier à gauche. Par contre, grosse satisfaction sur le poste de gardien.
Alors que ça a mal commencé.
Ouais.
Au début, il n'était pas convaincant, et là, sur les derniers mois, c'est vraiment très intéressant.
Ouais, donc voilà, c'est mi-figue mi-raisin comme saison, parce que tu t'en sors bien. Derzac a fait le taf, mais je suis pas sûr que l'effectif ait un niveau de 10 ou 11e de Ligue 1, en tout cas pas vu le niveau des performances des joueurs cette saison.
Après, si tu relativises, c'est quand même par rapport à ce que tu disais sur la saison dernière, c'est une très bonne saison finalement, ah, puisque oui, t'as pas à trembler, t'es tranquillement en milieu de tableau, et en plus t'as ta marge de progression, parce que comme tu le dis, quand tu te retrouves avec Duverne qui est obligé de jouer latéral pendant une bonne partie de la saison, tu te dis, allez, si tu trouves un latéral gauche, peut-être que déjà tu règles en partie ce problème et tu peux avoir un peu plus d'ambition et être encore plus fonctionnel l'année prochaine.
Ouais, parce qu'ils n'ont pas remplacé Perrault, du coup. Ouais. Ils ont pris Uronen, mais qui
ça n'a pas marché.
Non plus. Et puis, il faudra voir aussi dans le secteur offensif, parce que je pense que Onora est amené à faire comme Fèvre et aller plus haut. Et là, il va falloir trouver d'autres sources, soit qui sont déjà au club, je connais pas les jeunes du centre, soit aller chercher des bons joueurs, pourquoi pas, parmi les équipes qu'on va évoquer à la fin de l'épisode.
Et donc, petit rappel, Brest avait 6 points après 11 journées.
Ouais.
Et ensuite a enchaîné une série hyper positive, je crois que c'est...
Ils avaient 5 ou 6 victoires de suite, ouais, 6 victoires de suite.
Avec des bons adversaires, hein, Monaco, Lorient, Lens, Bordeaux, Saint-Etienne, Marseille. Alors c'est soit du haut, soit du bas de tableau, mais je veux dire, c'était pas que des matchs faciles, et forcément cette série a quand même changé toute la destinée de la saison. Donc du coup, Raphaël, tu restes sur l'idée, alors il y avait trop de mots dans la formulation de Florent pour exactement que je puisse te la reciter, mais le côté c'est bien, mais ça pourrait être un peu plus créatif, quoi. Il y a
bravo pour l'attitude, des efforts faits en classe pour s'améliorer. Et puis il faudra montrer un peu plus de personnalité l'année prochaine pour apporter à la classe et aux autres élèves, tu vois. Je dirais que c'est un peu ça, Brest.
12e, Reims. Donc Brest avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls, 14 défaites, moins 4 de différence de but. Reims est assez équilibré, 10 victoires, 13 nuls, 13 défaites, moins 1 de différence de but. Comme je disais, 43 points, juste devant Montpellier à la différence de but. Je vais à nouveau commencer par Florent. Je le disais juste avant, Montpellier, Reims. C'est la troisième, enfin c'est toi qui le disais, la troisième équipe un peu de milieu de tableau, même si c'est plus sur une remontée en fin de saison, alors que Montpellier, c'était plus une baisse en cours de saison. Enfin voilà, ces deux trajectoires qui se sont croisées, alors que si on prenait ça au tiers de saison, c'était pas du tout les mêmes choses. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, de son entraîneur, de ses individualités? Moi, j'avoue que je suis un peu mitigé sur ce que je vois du côté de Reims.
J'ai beaucoup plus de mal à les cerner, en fait. Autant Brest, tu vois tout à fait le projet, etc. On l'a dit tout à l'heure. Autant Reims, je sais pas trop parfois ce que ça veut faire, à quoi ça veut ressembler. Alors peut-être que je suis un petit peu influencé par le fait que ce soit Oscar Garcia, le coach, et ce qu'il a pu faire avant, ou ce qu'il a pu rater aussi avant. Je sais pas si ça pèse énormément ou pas dans le jugement.
Ou ce qu'il peut dire aussi, parce que il porte une image de jeu offensif, hein, il se revendique, oui, j'ai joué pour Cruyff, oui, j'ai coaché Salzbourg, oui... je veux des choses, et forcément, on les voit pas forcément sur le terrain.
Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup plus de mal à juger de la saison, du potentiel. Ce qui est intéressant, aujourd'hui sur Reims, plus que le ce qui monte sur le plan collectif. C'est en effet certaines individualités qui ont tiré le collectif vers le haut, évidemment Ekitike. Mais la question, c'est de savoir si d'autres joueurs que les dirigeants ont fait l'effort d'aller chercher, là je pense à Kajust, vont être capables de vraiment s'exprimer dans ce collectif-là. Jusqu'ici, je ne l'ai pas vraiment vu, pas beaucoup vu. Alors sur la deuxième moitié de saison, je n'ai pas non plus vu Reims tous les week-ends, là encore. Mais je n'ai pas l'impression que Kajust ait particulièrement marqué les esprits depuis son arrivée.
Il a été titulaire que 4 fois depuis qu'il était arrivé. Donc
Après, il faut s'adapter, etc. Mais c'est vrai que ouais, Reims, j'ai beaucoup plus de mal. Autant, tu vois, Brest, je suis rarement tombé sur les mauvais matchs. Autant Reims, c'est arrivé un peu plus souvent. Et c'est vrai que quand il se passe rien dans les matchs de Reims, il se passe vraiment rien, mais des deux côtés, quoi. Ils sont capables de fermer et de faire en sorte que rien ne se passe.
Avant que tu donnes ton appréciation, Raphaël, alors je vais pas tous les faire, mais c'est quand même une équipe extrêmement jeune. Sur la ligne offensive, par exemple, Touré, Mboukou, Hornby, Ekitike, Van Bergen, on est sur 21, 22, 23 ans de moyenne d'âge. Ils ont tous entre 19 et 22 ans. Au milieu de terrain, Flips, Kajust, c'est 22, Kebal, c'est 23. Derrière, il y a aussi pas mal de joueurs assez jeunes. Donc là-dessus, il y a un projet qui est assez clairement défini. Bon, il y a chez les plus âgés, il y a notamment Zeneli, Berichal et De Kosovar qui ont 27 et 29 ans, mais qui n'ont pas tellement joué pour diverses raisons, notamment de blessures. Donc là-dessus, on peut voir le projet jeune, etc. Sur le terrain, qu'est-ce que tu en as pensé?
Mais, sur le plan collectif, pas grand-chose. C'est difficile de dégager une identité de cette équipe. C'est marrant, je suis sur Ouscore en même temps. Et donc, il y a toujours cet algorithme des forces et des faiblesses. Je vous lis les faiblesses pour commencer. La finition, éviter d'être hors jeu, garder le ballon, les duels aériens et défendre les coups de pied arrêtés. Et dans les forces, il y a un vide. Il y a marqué l'équipe n'a aucune force significative. Et c'est un peu ça le Reims cette saison, je trouve ils sont un peu comme Brest, rarement ridicules, ils sont jamais très loin dans les matchs, ils prennent pas des scores, d'ailleurs ils ont pris quoi 40 buts je crois, quelque chose comme ça en 36 journées,
donc
c'est pas des équipes qui en prennent 2 3 ou 4 par match, mais sur le plan collectif, je sais pas, c'est quoi les principes de jeu de Reims à part être compact, essayer de se projeter vite à la récupération. Voilà, il y a eu des moments où ça ressortait un peu proprement, il y a eu des moments en début de saison où sur le plan offensif ça combinait assez joliment, mais je pense que ça dépendait plus des individualités que des principes de jeu, parce que ce soit Kebal ou que ce soit Hornby, c'est très différent la façon de jouer selon certains postes. Après par contre c'est une équipe qui, à la différence de Brest, je pense, a l'effectif pour aller plus haut. Alors que Brest, je pense qu'ils, s'ils changent pas l'effectif, ils auront du mal à faire mieux que 11-12 et un maintien tranquille. Mais là, il y a quand même pas mal de joueurs à potentiel dans cette équipe, ça dépend qui ils vont réussir à garder. Mais t'en as pas parlé, mais j'aime bien Mathieu Ziwa, par exemple, au milieu de terrain.
Je trouve qu'il fait une bonne saison. Hein.
Bon, après, Ghislain Conan, je crois qu'il est amené à partir. Il devait partir cet hiver déjà, donc j'imagine qu'il va s'en aller là cet été. Rajkovic, c'est un très bon gardien de Ligue 1. T'as une défense centrale plutôt pas mal, qui est sans fioriture, mais qui est assez efficace. Après, t'as les Kassama, Kajust, Adeline et compagnie qui peuvent faire des bons joueurs. Lopi aussi, c'est un bon joueur de foot. J'attends de voir le passage du cap suivant pour Mboukou. Parce qu'il est jeune, tu l'as dit, Christophe, mais ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'il joue régulièrement en Ligue 1. Donc il est jeune en âge, mais c'est quand même un mec qui a de la bouteille maintenant. Et puis après, il y a des jeunes comme Loco et compagnie qui sont intéressants. Et ceux qui vont arriver du centre et les jeunes qui vont réussir à récupérer parce qu'ils scoutent assez bien. Donc pour moi c'est plus décevant pour moi que la saison de Brest par exemple. Tu vois, je m'attendais à ce que Reims puisse les taper un peu plus haut avec les structures qu'ils ont en place. Brest, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de retard sur la partie recrutement par rapport à Reims. Donc ouais, je suis plus déçu, pas de la place elle est correcte, mais de l'absence de frissons qu'on a eu avec Reims cette saison.
Et aime beaucoup pour situer. C'est 1400 minutes cette saison en Ligue 1, 2200 l'année dernière et 390 il y a 2 ans. Donc c'est vraiment l'an dernier où il a ses 28 titularisations, 4 buts. Mais tu te dis, 19 ans, 28 titularisations, 4 buts. Peut-être que l'année de ses 20 ans, ça fera 30 titularisations, 9 buts ou 8 ou 6. Et là, c'est 2. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas.
Mais il y a des super qualités en plus. C'est dommage qu'on les voit pas sur le plan statistique parce qu'il a des vifs, il a un super pied gauche, il est fort sous pression, mais on n'arrive pas à le voir concrétiser tout ça sur le plan offensif.
Florent, l'appréciation.
Alors, parfois, on n'est pas obligé de mettre d'appréciation hein, quand il n'y a pas de raison d'en mettre. Parce que je rejoins Raph, j'ai pas de.
RAS.
Ouais, RAS, passable.
Pour moi, c'est vraiment l'élève moyen, quoi. C'est celui qui fait pas de vagues, qui est jamais insolent en classe, mais.
Ouais.
Tu te rends pas, tu te rends pas compte qu'il est pas là quand il est pas là.
Ouais, voilà. On va mettre ça dans l'appréciation.
C'est un peu méchant, ouais.
Mieux vaut ça qu'être ultra négatif. 13e, Montpellier, là aussi, 43 points, 12 victoires, 7 nuls, 17 défaites. C'est quand même beaucoup. 49 buts marqués, 55 encaissés. Donc là, une équipe qui a marqué plus de buts, beaucoup plus de buts que Reims, mais qui en a encaissé aussi beaucoup plus. Raphaël, je vais commencer avec toi ce coup-ci. Pour la saison de Montpellier, qui peut forcément un peu se lire au miroir de celle de Brest, puisque les deux entraîneurs ont pivoté, et qui là aussi, tu peux la découper. Alors d'ailleurs, tu peux faire un parallèle avec ce qui s'était passé pour le même entraîneur la saison dernière, hein, parce que là aussi, la deuxième partie de saison était quand même extrêmement compliquée, mais là, Montpellier, par exemple, alors je prends un truc totalement au hasard sur Understat pour les temps de passage. Le 26 janvier 2022, après 22 journées, Montpellier a 34 points, soit autant que Rennes, un de plus que Monaco, un de moins que Strasbourg.
Ouais, non,
donc,
mais
donc voilà.
Bah, à la mi-saison, je regardais après 19 journées, ils étaient 5e avec 31 points, à 3 points de Nice qui était 2e. Et ils avaient fait. Alors les chiffres avancés montraient que c'était peut-être très bien payé, parce qu'ils avaient marqué 10 buts de plus que le Respected Goal, notamment à travers les inspirations de Savani ou de Mavididi, je pense, qui ont tendance à finir des occasions dans des situations difficiles. Mais donc il y avait sans doute cet aspect-là et c'est revenu à la norme depuis, j'imagine. Je vais faire la comparaison parce que là Montpellier du coup est à 40 XG, 49 buts marqués. Donc le plus 10 qu'ils avaient à l'époque est toujours là, mais il n'y a pas eu de super performance sur la deuxième partie de saison et ils ont pris les buts qu'ils devaient prendre. Donc c'est ce qui peut expliquer la chute.
Et depuis le 23 janvier et leur victoire contre Monaco, ils n'ont que deux victoires contre Lorient et Bordeaux à l'extérieur.
Et sachant que celle contre Bordeaux,
c'est à 9 contre 11.
C'est à 9 contre 11, un match très bizarre.
Mais apparemment, la Ligue va intervenir pour ne plus compter du tout les victoires contre Bordeaux pour avoir un vrai classement.
Mais garde-en pour la fin. Garde-en pour la fin, ça sera le dernier.
Non, mais oui, déception, parce qu'en plus, tu parlais du Cadaloglio, Christophe, qui avait fait un peu la même trajectoire à Brest. Et il s'est fendu de certaines déclarations, là, à Montpellier, qui ont énervé les supporters montpelliérains, comme les supporters brestois étaient énervés la saison dernière. Notamment, en ciblant des joueurs et en se dédouanant un petit peu. Donc il faudra voir si c'est un truc, une tendance qui revient chez lui quand la difficulté se présente. Mais c'est une déception parce que sur la première partie de saison, alors on savait que ça tenait en grande partie à ce que proposait Savanier. Et d'ailleurs lui aussi a un peu disparu sur la deuxième partie de saison. Je me souviens pas du dernier match de Savanier où on s'est dit « Oula, quel joueur !» Mais ouais, c'est vraiment une équipe dont on attendait mieux. Et d'ailleurs qui visait l'Europe. Bon, après ils ont... Donc ils ont moyennement remplacé le double départ de leur Laborde, quand même. Ça c'est quelque chose qu'il faudra régler cet été.
Ouais, bah c'est de ça que j'allais parler, parce que quand tu prends en fait le début de saison avec les départs justement de Delors et de Laborde qui partent courant août, hein, du coup, puisqu'ils jouent, ils ont trois matchs et quatre matchs chacun.
Delors il part le dernier jour. Hein,
ouais, c'est ça. Ils mettent 5 buts quand même hein, sur le mois d'août, Delors et Laborde avant de partir. Et en fait, du coup, tu te dis, bon, ok, ça risque d'être compliqué pour Daloglio, sa première saison. Tu perds deux gars du trio qui a porté l'équipe sous Derzakarian les saisons précédentes. On va être un peu indulgent. Et en fait, il faut une très bonne première moitié de saison, comme tu le disais, Raphaël, avec Savani qui les porte. Ils sont au port de l'Europe, 5e place, etc. Tu l'évoquais tout à l'heure. Mais c'est vrai que depuis janvier, j'évoquais le bilan depuis la victoire contre Monaco. C'est leurs trois seules victoires sur la deuxième moitié de saison.
Ils ont combien de points sur la phase retour ?
Très peu. Alors j'ai juste trois victoires et alors je vais te dire combien il y a de nuls en plus. Il y a un nul, deux nuls, trois nuls. Je crois qu'il y a 6 points.
Là sur 17 journées, il y a 12 points. Sur les 17 dernières journées, donc
oui,
depuis le 28 décembre, c'est ça. C'est l'avant-dernier bilan de Ligue 1, même derrière Metz à la différence de but.
Et pour avoir vu récemment, alors j'ai vu leur match face à Saint-Etienne, mais ça c'était en février quand Saint-Etienne remonte et eux s'effondrent totalement. J'ai aperçu aussi le match face à Lyon où ils prennent 5-2. Et tu vois aussi une défense qui part un petit peu dans tous les sens, quoi. Et très facile à prendre à défaut. Alors sauf quand elle est à 9 contre 11, Ça c'est pour moi. Mais c'est vrai que c'est assez, je trouve, la deuxième partie de saison très inquiétante. Et la suite avec le possible départ de Savanier risque de rendre les choses encore un peu plus compliquées. Parce qu'il faudra vraiment pas se tromper l'été prochain. Alors ils ont Eli Wahi qui a mis sa dizaine de buts. Ils ont Mavididi qui sont là pour conclure. Et d'ailleurs c'est une des équipes qui sur la deuxième moitié de tableau parmi les équipes dont on parle qui a, comme tu l'as dit Raph, le plus de réussite, en tout cas qui est la plus efficace, une des plus efficaces devant le but. Ils ont aussi un gardien qui, pour l'anecdote, j'étais allé voir les statistiques sur FBRF, statistiques de gardien parmi toutes les équipes de la deuxième partie de tableau. Omlin est le seul gardien à être en positif, donc il leur a apporté aussi quand même pas mal. Et par rapport à d'autres équipes, notamment celles dont on va parler après, où le gardien a sans doute pesé mais en négatif et sur la saison, et c'est une équipe qui concède énormément quoi, de tirs notamment, près de 16 tirs concédés par match, c'est la pire du championnat. Alors c'est pas forcément des tirs compliqués, mais quand même disons qu'il y avait de l'indulgence en début de saison, et en fait t'as l'impression qu'il n'y a pas eu de progression, et que t'as même le sentiment que tu termines moins bien que ce que t'avais pu faire à l'automne ou des choses comme ça. Donc
après Dalloglio prend toujours des buts, hein. Il faut se souvenir des saisons à Dijon où il se maintenait en prenant 70 buts, il en marquait 50 aussi, mais
le problème étant quand la conversion ne suivra plus quoi. Pour l'instant c'est le cas, mais envie de mettre une mise en garde pour le travail quand même, parce que assez inquiet sur l'année prochaine, il faudra vraiment pas se tromper sur le mercato, je pense
qu'il faut menacer de redoubler pour que ça se réveille.
Petit quiz, messieurs, combien de joueurs de champ ont entre 26 et 30 ans?
Montpellier, du coup.
Ouais.
Alors Savanier, Ferry.
Alors Savanier, si tu considères 30 ans, oui. Si tu prends les deux, les bords.
Ah non, Germain doit être plus vieux en plus.
Ouais, Germain a 32. Alors je vais vous dire sur les attaquants. Germain a 32, tous les autres attaquants ont 23 ans ou moins. Ouais. Sur les milieux de terrain, Mollet et Savanier ont 30 ans. Ferry aussi, Sambia à 25, sinon c'est soit très jeune, soit très âgé. Et sur les défenseurs, Souquet à 30 ans, Ristich à 26 ans, sinon c'est aux alentours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur dans l'effectif qui a 27, 28 ou 29 ans.
Il n'y a aucun qui est dans son pic de carrière finalement.
Donc soit on peut se poser la question de Sako, 32 ans, qu'est-ce que ça sera l'année prochaine, Savanier, Ferry, ces joueurs comme ça, Mollet qui a 30 ans aussi. Soit c'est très jeune, tu peux espérer une progression, mais tu peux aussi imaginer qu'un Mavididi, je pense, sera assez sollicité. Donc là-dessus, vraie interrogation. Donc du coup, menace de redoublement, c'est un peu l'idée quoi, en gros,
mise en garde.
Petit coup de pression quoi.
Mise en garde, ouais.
Mise en garde pour la saison prochaine.
Pour le travail.
Et noter aussi qu'un pari comme Germain, par exemple, c'est pas avéré payant. Parce que c'est vrai que sur le plan effectif, sur l'aspect offensif, ça a pas forcément fait que des bons choix.
Juste, dernier mot sur leurs attaquants. Ils avaient avec Delors et Laborde deux attaquants qui pouvaient emmener une équipe sur de différents types d'actions et de buts. Ils pouvaient décrocher pour participer, ils pouvaient partir en profondeur, ils pouvaient combiner avec les autres.
Ouais, là, c'est plus
le cas. Et là, ils se retrouvent avec Mavididi, qui est bon, mais qui est quand même un peu monomaniaque. Je prends le ballon, j'avance, je conduis, je frappe fort, souvent petit filet, il le fait très bien, mais c'est quand même des types de buts difficiles. Et Germain et Wahi, qui sont des mecs capables de marquer, mais qui ne t'apportent rien plus bas sur le terrain. C'est-à-dire que Wahi, si tu regardes ses stats avancées, il y a des buts et rien. Il n'y a que ça dans son jeu. Et Germain, le Germain en tout cas de 2022, c'est pareil. Donc ils ont un vrai souci, parce qu'il n'y a que Savanier qui est une source de création dans cette équipe. Et les autres milieux de terrain sont pas créatifs. C'est des travailleurs. Alors, Chotard a mis un super but. Mais Chotard, Ferry et compagnie, c'est pas des créatifs.
Donc, même si,
faut voir ce qui sort du centre et les jeunes qui commencent à jouer.
Juste un petit mot sur Ferry, qui était à Lyon, un joueur de rotation.
Il a progressé.
Et qui a progressé, qui est aujourd'hui un milieu, je trouve, très solide. Enfin, qui aurait pas à rougir, je pense, dans des clubs qui joueraient l'Europe aujourd'hui en Ligue 1.
Non, mais il est pas à 150 niveau d'écart de Valentin Rongier, par exemple, tu vois, si on fait la comparaison.
Oui, par exemple.
Ouais. Et petite curiosité statistique qui va amuser que moi, mais qui me fait marrer. Alors, on n'est pas sur des purs numéro 9 attaquants, etc. Mais Gioacchini, qui est quand même attaquant. Alors, il fait que deux entrées quasiment. Mais 26 apparitions, 0 but pour l'américain, et ce qui va en parallèle avec Timothy Weah, l'autre américain, qui a lui 27 apparitions, 0 but. Donc voilà, sur des offensives d'un même pays qui n'ont jamais réussi à marquer. Alors après, il a que 400 minutes la mi-jeu à Kini, mais c'est pour dire que voilà, les Américains nous ont ramené des jeunes qui pour l'instant ne performent pas sur le plan de la finition. Angers, 14e, 38 points en 36 journées, je vais y arriver, moins 12 de différence de but, 42 buts marqués, 54 encaissés, 9 victoires, 11 nuls, 16 défaites. Raphaël, est-ce que tu vas réussir à parler d'Angers sans parler du gardien et de la gestion de tout ça? Est-ce que, moi, je t'avoue que, je sais pas, Florent, mais moi, vraiment, alors, il y a aussi un biais un petit peu de temporalité parce que c'est assez récent, mais c'est vraiment la première chose qui me vient, et la deuxième, c'est la différence entre les principes des 5 premières journées, 6 premières journées, et ce qu'on a vu sur la suite de saison qui est quand même assez éloignée de tout ça.
Commençons par le gardien, quand même, puisque tu en parlais, Christophe. Bon, déjà, on peut féliciter Mandrea, qui, je pense, fait partie, enfin, qui est la raison principale du maintien d'Angers.
Qui est légèrement positif aussi sur les PSI que j'ai, d'ailleurs.
Ça doit être le seul d'Angers.
Ah bah oui, largement.
Oui, ça.
c'est combien Petkovic, là, si t'as le temps de chercher?
Je crois que je te le fais de tête, je crois qu'il est à, sur l'ensemble des matchs, donc c'est le nombre de buts, en plus ou en moins, je crois qu'il est à moins 5 ou moins 7. En fait, il y a Bernardoni et Petkovic, il y en a un à moins 5 et un à moins 7. Donc, et je sais plus, c'est un des deux, en fait.
Sur des échantillons qui sont pas énormes, hein, parce que prendre 5 buts de plus qu'attendu sur 38 matchs, déjà, c'est pas ouf.
Oui, le gap. Sur des demi-saisons. Le meilleur, c'est Benitez qui a plus 6,6, je crois. Et le pire, je crois que c'est Costil qui doit être à moins une petite dizaine, je crois.
Bon, on va regarder ça pour la suite de l'épisode. On va laisser
ça va servir, oui.
On va laisser Raphaël reprendre sur Petkovic, sur Bernardoni aussi, mine de rien, hein, qui est quand même toujours le plus gros achat de l'histoire du club et qui n'est pour l'instant pas là parce qu'il est prêté à Saint-Etienne.
Alors après, Angers, je vais pas dire que je suis content qu'il soit dans la galère, mais je me rappelle, parce que je vous avais dit en janvier ou en février, quand je voyais qu'il gagnait plus d'un match, je vous ai dit, mais Angers, ils vont, si ça continue, ils vont descendre. Et ils ont continué à perdre des matchs. J'avais fait le total de leurs points là avant les 2-3 dernières journées, parce qu'ils ont pris contre Clermont, ils ont gagné contre Bordeaux. Mais même avant le match à Brest là en mars, le 20 mars, ils étaient sur une série de 7 défaites de suite, dont des défaites contre Saint-Etienne, contre Reims, une défaite 5-2 à Marseille, on se rappelle du match, je crois que c'est un des rares bons matchs de Marseille en 2022. Ils perdent à domicile contre Strasbourg, ils ont 0,26 XG. Ils perdent contre Lens à domicile, ils ont 0,6 XG. Ils vont à Rennes, ils perdent 2-0, ils ont 0,30 XG. Ils perdent à domicile contre Reims qui a 1,5 XG. Enfin, c'est quand même une saison très difficile. Et heureusement que le maintien se joue très bas, parce que c'est une équipe qui n'est qu'à 38 points. Et l'an dernier, à 38 points, tu descends. Et leurs deux dernières journées, c'est Metz et Montpellier. Donc peut-être qu'ils vont prendre des points. Mais c'est une saison qui, par rapport aux qualités des joueurs et à la stabilité de l'effectif, moi, c'est une saison ratée. Surtout quand t'as bien démarré, t'as réussi à récupérer des bons joueurs quand même cette saison, notamment Ben Taleb qui est un joueur de qualité. Après, faut voir dans quelles conditions il est arrivé, mais c'est une saison bien ratée. Après, oui, il y a la question du gardien, combien ça t'a coûté et qu'est-ce que tu fais comme saison si tu démarres la saison avec, je sais pas, à la place d'avoir tes gardiens, si t'as Omlin qu'on disait tout à l'heure.
Petit point statistique, alors forcément, selon les semaines qu'on prend, on pourra toujours trouver des équipes qui ont des mauvaises passes, mais si on prend du 7 décembre au 4 mai, alors c'est des dates un peu arbitraires, n'empêche que ça fait 18 matchs, Angers a 10 points en 18 matchs, pire équipe de Ligue 1, 13 buts marqués, 31 encaissés. Donc on est quand même sur un échantillon qui fait la demi-saison, ouais, où Angers est catastrophique. Donc bon, c'est là-dessus, bah, c'est si quand même un vrai temps faible, Florent.
Si tu leur enlèves leur mois d'août, je pense qu'ils sont dans les relégables. Hein.
Ouais. Redonne-moi la date, s'il te plaît, la première date que t'as
choisi. J'ai mis 7 décembre, en 7 gros, décembre. J'ai pris de manière arbitraire. J'aurais pu même prendre la semaine d'a... Non, c'est ça, j'ai pris après leur victoire face à Reims. En gros, c'est le moment où ils débutent leur mauvaise série. Ils perdent contre Clermont, ils perdent en coupe contre Linas Montlhéry.
Montlhéry, on dit.
Mais justement, c'est pour un petit peu nuancer ce que vous dites, parce qu'en fait, quand tu prends la saison, là aussi, avec les chiffres, aux expected goals sur la période et aux expected points en utilisant le understats pour aller les chercher, tu vois, ils ont 13 points sur ce bilan là sur cette période là mais aux expected points ils en ont 21.
Ouais, mais ça, c'est les gardiens. On sait. Enfin, c'est le.
Après, en partie. C'est pas que les gardiens, mais en effet, c'est là où ils sont le moins performants.
Un truc, c'est que ça a fait tourner des matchs aussi. Oui. Au-delà de prendre un but, c'est que ça me fait tomber des matchs. Mais après, par contre, je trouve que dans le jeu, c'est une équipe qui a perdu le fil très vite dans sa saison.
Oui, ça par contre, c'est vrai. C'est-à-dire l'enthousiasme du début de saison où tu voyais un gros pressing, notamment le match face à Lyon.
Des sorties de balles de qualité sous pression. En plus, il y a les joueurs pour le faire, parce que quand t'as Unai, Fulgini, Bouffal au milieu de terrain, même Mangani, tu peux quand même faire des choses intéressantes sous pression. Et ces choses-là, on les a vues petit à petit disparaître. Et maintenant, d'ailleurs, quand tu regardes un match d'Angers, tu sais plus trop comment ils veulent jouer.
Après le problème, c'est que t'as aussi ce volet qui est très simple. Et il y a aussi une difficulté d'ailleurs sur les sorties de balles, c'est que si le gardien n'a pas un bon pied, ça peut se compliquer assez vite. Mais t'as aussi ce volet, et je pense que c'est ce qui leur est arrivé en cours de saison, c'est que quand à un moment donné tu perds beaucoup de certitude parce que derrière c'est très fébrile, et quand je dis derrière, c'est surtout dans les buts, et ben tu vas être beaucoup moins expansif et tu vas réduire beaucoup de choses dans ton jeu avec ballon et dans tes prises de risque pour éviter justement de devoir te reposer sur ton gardien un peu trop souvent. Et c'est vrai que autant il y aura une autre équipe où il y a eu aussi des problèmes de gardien, même deux je pense, voire trois sur les prochaines qu'on va évoquer. Mais c'est vrai que Angers, qui est aujourd'hui 13, je pense qu'avec un gardien à la home line, ils peuvent gagner 2-3 places, peut-être se retrouver devant Brest et peut-être un poil plus haut, pas beaucoup plus. Mais c'est vrai, comme vous le disiez, il y a quand même un potentiel devant qui est intéressant. Quand ça...
Sur les milieux off, plus sur que les sur les attaquants.
Oui, c'est vrai, sur les milieux off, même s'ils ont un Lichaud, mais qui a pas encore la caisse pour tenir 90 minutes, je pense.
Bah, et qui a 4 buts cette saison.
Oui, qui avait démarré très fort en plus aussi. Donc, il y a de quoi être fonctionnel, mais ce qu'il faut aussi noter... là aussi pour être un peu indulgent, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu le fil, c'est que c'est quand même une équipe qui sortait d'un très long cycle avec Moulin, où ça jouait d'une manière, et quand Batic est arrivé, et vu le début de saison, il a voulu mettre tout de suite, j'ai pas envie de dire un projet totalement opposé, mais franchement pas loin, quoi. Sur les débuts de saison, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait vu les années précédentes. Alors c'est peut-être pour ça que ça n'a pas duré longtemps, et qu'ensuite on est revenu à des choses plus habituelles. Le système est resté, mais c'est vrai qu'on a moins vu dans... On n'a pas revu l'enthousiasme des débuts. Maintenant, à voir les deux dernières journées. Là, je pense que contre Bordeaux, le week-end dernier, ils se sont définitivement sauvés. De toute façon, c'est quasiment fait mathématiquement.
Oui, non, c'est sûr.
Ouais, voilà.
Ils ont 7 points sur Saint-Étienne, donc ils sont sauvés.
Donc, peut-être que là, sur les deux dernières journées, en plus, avec des adversaires à leur portée, ça, ils vont un petit peu se lâcher. À voir. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel intéressant. À voir, parmi les milieux off, justement, qui est-ce qu'ils vont garder l'année prochaine et qui est-ce qui va partir.
Alors, ils ont Fulgini en plus, mais Bouffal est presque aussi important pour Angers que Savanier l'est à Montpellier. Il fait une grosse saison d'ailleurs. Je regardais ses chiffres.
8 buts, 4 passes décisives.
Et même les XG, les explicites assists sont vraiment bien aussi. Alors que quand il était revenu la saison dernière, il était pas performant. Et je pense que sans lui, enfin, s'il n'y a pas Bouffal cette saison, à mon avis, Angers est dans les 3-4 derniers aujourd'hui encore à la bagarre. Donc il a fait une belle saison, mais il faudra trouver autre chose la saison prochaine pour l'accompagner, sans doute, parce qu'en plus Fulgini, avec ses nombreux faux départs, j'imagine qu'il va bien partir un moment.
Petite liste des attaquants, puis quiz, tous les offensifs sur Soccerway qui ont joué cette saison: Ninga, Fatar, Cho, Mbok, Nadje, Yakolis, Bauken. Cho a 3 buts, Bauken en a 4 pour Cho, 3 pour Bauken, 0 pour les autres. Et dans combien de matchs Casimir Ninga a marqué en championnat depuis la reprise en 2019, depuis août 2019? Dans combien de matchs Casimir Ninga, qui a fait notamment une saison à Sivasspor, hein, sinon c'était quand Angers.
Alors,
mais il a combien de matchs en Ligue 1 sur la période, du coup, qu'il nous donne?
Alors, il en a 16, 17, plus 15, 32. 32 en Ligue 1, plus 16 en Turquie.
Alors, si c'est pas... Ah, donc il y a les matchs en Turquie aussi qui comptent.
Oui, je vous le mets dans le lot. Dans combien de matchs est-ce qu'il a marqué en championnat?
Donc on a 48 matchs de championnat, c'est ça?
C'est ça.
Alors, j'ai envie de te dire 1, mais c'est un triplé.
Et exceptionnel, Florent.
Oh là là, il est injouable, ce mec.
Le triplé face à Saint-Etienne, le 22 septembre 2019.
Ah, okay, j'allais dire ça compte pas, mais c'est pas cette saison.
Et il n'a pas marqué depuis. Casimir Ninga, c'est un peu gratuit, c'est pas pour lui, mais ça me fait marrer comme stat.
Sur la saison d'Angers aussi, il me semble que ça s'est un peu complexifié quand Cabot s'est blessé.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On allait oublier d'évoquer Jimmy Cabot, dont le repositionnement en piston va peut-être lui offrir le début d'une nouvelle carrière intéressante.
Ça fait partie des joueurs qui n'auraient jamais dû rester en Ligue 2, Jimmy Cabot. J'ai jamais compris. Dès que tu le voyais jouer, il était largement au-dessus. Il pouvait éliminer n'importe qui. Donc, faudra voir la saison prochaine s'il se remet bien et qu'il peut faire toute la saison. Là, il a pas joué depuis longtemps, je pense, quoi. Qu'il s'est blessé, là, sa saison est terminée. Ouais, il a joué la dernière fois en février. Il s'est blessé et depuis, il a pas joué. Et Angers allait déjà pas bien, mais ça s'est pas amélioré depuis.
Donc, on verra Jimmy Cabot. Il me semble qu'à Lens, c'est fait, a priori, qu'ils vont pas l'officialiser tout de suite, mais que c'est à peu près.
Il va signer à Lens?
Logiquement, moi, de ce que j'entendais, c'était fait à 95%.
Quoi, c'est le remplaçant de Clause, du coup?
C'est ça.
A priori, ouais.
C'est ça. Avec le même volume de course, etc. En un petit mot, messieurs, l'appréciation pour garder un peu cette thématique du bulletin.
Alerte rouge.
Si tu mets des alertes rouges dès le 14e, Raphaël.
Ah, mais parce que c'est par rapport à ce qu'on attend des clubs.
Oui.
Mais alerte rouge, parce que c'est un club qui était plutôt stable en Ligue 1 ces dernières saisons, et cette année, la dynamique n'est pas bonne. Donc, il faut travailler là. Bon, après, ce qui est bien, c'est que là, ils se sont maintenus, donc ils vont pouvoir prendre un peu d'avance sur le mercato, en comparaison des 5-6 équipes qui sont encore dans le feu.
Florent.
Ouais, non, je vais rester un petit peu comme Reims, élève moyen, mais j'ai pas grand chose à rajouter sur la suite. Je suis curieux de voir ce qui va se passer cet été.
Et on part sur du 3, 15e, 36 matchs, 37 points, 35 buts marqués, 49 encaissés, moins 14 de différence de but, 9 victoires, 10 nuls, 17 défaites, un changement d'entraîneur en cours de saison qui va peut-être influencer vos avis. Florent, qu'est-ce que t'inspire cette équipe troyenne que j'imagine, alors peut-être que non, mais je pense que tu l'as un peu plus vue sur la première partie de saison que sur la deuxième.
Eh ben, peut-être pas, figure-toi.
Ah, c'est bien,
peut-être
pas, tant mieux.
Figure-toi. Mais alors... Avec 3, alors c'est vrai que tu l'as évoqué pour cet élève, c'était pas toujours simple à la maison. Il y a le papa qui est parti en cours de saison, c'était difficile. Il y avait des problèmes à la maison, j'ai l'impression. Mais et c'est vrai que en fait quand Batles se fait débarquer, il y a un peu cette impression de bah ça va partir dans tous les sens, quoi. Et finalement il se sauve, je vais pas dire tranquillement, mais le fait que 3 se retrouve à 2 journées de la fin. Puisqu'on enregistre à 2 journées de la fin, quasiment sauvé, je pense que on l'aurait peut-être pas parié en début de saison, quoi. Donc j'ai presque envie de dire qu'ils s'en sortent plutôt bien, sachant qu'il n'y a pas non plus d'immenses joueurs qui ont pu porter l'équipe, ou un grand gardien, ou voilà. J'ai l'impression que la saison a plutôt bien tourné, et que les matchs qu'ils ont gagnés, c'est rarement par chance, quoi. Les matchs qu'ils ont gagnés, ils ont mérité la plupart du temps.
Ouais, ils ont pas perdu beaucoup de points en route, je pense. Tu vois, il y a pas beaucoup de matchs qu'ils auraient dû gagner qu'ils ont pas gagné, par exemple, ou des matchs qu'ils ont perdu alors qu'ils avaient dominé, genre des choses comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors
ils ont été efficaces là-dessus. Là encore, au Parc, le 2-2, ils s'en sortent bien, hein. Ils font des efforts et tout, ils font pas un mauvais match, mais il y a plein d'équipes qui ont fait le même match au Parc et qui ont perdu.
Alors certes, ils ont pris quelques gros scores. Ils prennent un gros score à Lens, c'est fin d'année dernière. Enfin,
4-0, je crois.
Ouais, 4-0.
À Brest aussi, à Brest et à Rennes.
À Brest, à Rennes, ils prennent quelques gros scores. Mais ouais, je m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi intéressant. Et surtout à des joueurs. Moi, j'aime beaucoup Issa Kabore, à droite, notamment. Que je trouve très 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 intéressant. Il y a des bons petits joueurs. Il y a Tardieu qui est revenu parce qu'il
Kouame
a
aussi,
raté
Kouame
quelques matchs. Kouame, c'est pas mal aussi. Donc j'ai presque envie de dire une bonne surprise pour moi. Surtout que voilà, le passage de Batles à Erles, je m'attendais au pire à la fois
dans le jeu on a perdu quand même.
Ouais, dans le jeu on a perdu, mais pas autant que ce que j'imaginais en fait.
J'ai l'impression qu'on retrouve un peu plus.
Oui, sur la fin de saison.
C'est vraiment gros choc thermique. Et puis finalement, Irles se remet à refaire des sorties un peu sous pression et des choses qui ont pu fonctionner l'année dernière quand 3 a écrasé la Ligue 2.
Et ouais. Beau recrutement, Ike Ugbo.
Ugbo aussi, ouais. Je te laisse, tu viens de le faire.
Sur qui j'ai écrit dans la Ligue des Talents, hein. Donc un Anglais de 23 ans qui était à Genk.
C'est un Canadien.
Ah, pardon, mais il a été formé à Chelsea. Pardon, c'est pour ça que je disais en canadien, pardon. Bah, faudrait que je corrige, parce que je crois
bah,
que
il est né à Londres, mais
Ah, bah, ça va, tu m'embêtes. Bon,
il est quand même international canadien, tu verras.
Oui, non, mais il a la nationalité anglaise, je veux dire. Mais, il est formé à Chelsea, qui était à Genk cette saison, où ça se passait pas bien. Et là, il est venu, et je le trouve vraiment intéressant dos au jeu. C'est un attaquant assez classique, mais il occupe les défenseurs, il est assez efficace dos au jeu, il arrive à garder le ballon et à le rendre proprement. Il travaille beaucoup défensivement dans cette équipe qui court et qui a pas souvent de ballon. Je suis pressé de voir parce qu'il va faire la saison prochaine. Ce serait bien qu'il reste en Ligue 1, pourquoi pas à 3, pour avoir un peu de continuité. Mais j'aime bien le profil. Il a marqué quelques buts importants, bon, certains sur penalty, mais il a mis je sais plus contre qui, mais c'est contre Monaco. Il est dos au jeu, il arrive à se retourner, il envoie une sacoche dans le but que Nubel voit même pas partir. C'est un vrai bon joueur et Larroussi aussi qui est un bon joueur. Là, je suis curieux de voir ce que ça va donner la saison prochaine, l'ancien Liverpool. Même s'il a fait un choix qui m'a rendu fou là sur le match contre le PSG.
Oui, je me rappelle dessus. Mais où il doit envoyer à droite et il repart côté gauche.
Mais ils ont quelques bons joueurs. Après le niveau de la défense centrale, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que ça défend plus par quantité que par qualité.
Oui.
Faudra voir ce que ça donne la saison pro. Après, il y a City derrière, donc ils auront des ressources.
Ouais. Alors, ils auront des ressources.
Ils auront des joueurs. Après,
ils auront des joueurs. Là, il y a Palmer Brown qui, je crois, appartient à City. Je dis peut-être une bêtise. Qui est titulaire en défense centrale. Sinon, les autres, soit ils sont repartis, soit comme Metinho,
oui,
ils jouent avec la réserve.
Mais j'imagine que City va essayer de structurer.
C'est un truc que j'allais en tous les cas mentionner. Le côté City pouvait potentiellement prêter des bons joueurs. Ils ont prêté des joueurs, mais ils ont prêté les mecs de 23, 24 ans qui avaient un niveau, je sais pas, Ligue 1 à mon avis. Pour l'instant, ça n'a pas forcément
apporté.
Ça n'a pas forcément apporté. Ça a même plutôt embêté Batles, dont on ne sait toujours pas vraiment s'il a démissionné, s'il était licencié, si c'était d'un commun accord comme annoncé.
Et un truc.
Mais ça a l'air de le gonfler.
Et un truc sur Ugbo, pour compléter ce que disait Raph sur les buts importants, il met 5 buts en 807 minutes de jeu.
Il y a au moins 2 pénaux dans le jeu.
Ouais, mais c'est déjà le meilleur buteur troyen sur la saison en Ligue 1, avec 5 buts, à égalité avec Chavalrin, mais qui a 3 fois plus de temps de jeu.
YT7 n'a pas répondu présent cette saison.
Donc ça peut être en effet intéressant pour 3 s'ils arrivent à le garder une année de plus, parce que c'est peut-être lui qui peut être un game changer et leur permettre de passer une saison prochaine plus tranquille, parce qu'ils auront un attaquant qui sera capable de mettre 10-15 buts sur la saison, quoi.
Le YT7, il m'a quand même fallu 5 secondes pour comprendre que tu parlais de Tousgard, parce que sur le coup, c'était pas...
Ah si, si.
Il a fallu que je me reprenne la liste. C'est vrai qu'entre Baldé, Tousgard, Souk, Ripa, Motiba...
Il n'y avait pas Rodriguez, là, celui que tu nous as annoncé comme une pépite au début.
Je croyais beaucoup en Rodriguez, qui a joué la Ligue des Champions, etc., mais qui est ingérable et qui, ouais, a disparu. Je pense que... Je suis pas sûr que ça soit un footballeur de très haut niveau.
Je pense qu'Irles l'a pas apprécié parce que son dernier match date du 23 janvier dernier.
Il a été dégagé. Je sais même plus où il est, mais il est plus...
Il est plus...
Il a été licencié, il me semble.
D'accord.
Je crois qu'il a retrouvé un club, mais... Ça a été terminé. Bonsoir. Petite appréciation, du coup, sur 3, messieurs.
Beau deuxième et troisième trimestre. Ça s'est bien réveillé après un changement de staff compliqué, non, c'était une belle dynamique. Bravo pour les efforts.
Florent.
Oui, c'est ça. Je donnerais presque des encouragements pour l'année prochaine, mais je vais pas aller jusque-là quand même.
Non.
Clermont, 16e, 36 matchs, 36 points, 9 victoires, 9 nuls, 18 défaites. Il y a un truc assez symétrique là-dedans. Par contre, sur les buts, 37 buts marqués, 66 encaissés, ce qui pourrait être impressionnant si Bordeaux n'existait pas, voire Saint-Etienne. Ouais, mais Bordeaux
aussi,
vraiment écrase totalement la notion de buts encaissés. Oui, ou de défense, ou de
football, on peut dire.
Raphaël, Clermont, qui est quasiment maintenu au moment où on enregistre avec 5 points de marge sur Saint-Etienne. C'est la dernière équipe de ce pool. Avant, c'était des gens maintenus. Là, ça l'est pas, mais c'est quand même plutôt en bonne voie.
Et bah, déjà, je pense qu'à un moment de la saison, on les a tous vus relégués, clairement. Quand ça commençait à décliner, que Saint-Etienne et Bordeaux n'étaient pas aussi loin, on se disait, bon, Saint-Etienne, ça va remonter, Bordeaux, ça va quand même finir par remonter, mais clairement, avec les limites de l'effectif, avec la dynamique, on était un peu un pied. Il y a eu l'affaire Bayo en plus qui a un peu brisé sa dynamique en cours de saison. Rachani qui met plus un but. On s'est un peu inquiété. Et puis finalement, ça tient sur des victoires à l'arraché. Le match contre Montpellier récemment, la victoire à 3 qui a été hyper importante. Alors qu'ils avaient vécu une série très difficile avant, notamment le match à domicile contre le PSG, là, ils en prennent 6. Même à Lille, ils vont en prendre 4, ce qui n'est pas arrivé souvent quand même une équipe d'aller à Lille et d'en prendre 4 cette saison.
Même si c'est très très mal payé, mais oui.
Comme quoi, c'était possible. Et puis, en fait, il y avait une première partie de saison où ils avaient beaucoup perdu sur des matchs qu'ils avaient maîtrisés. Je me rappelle le match à domicile contre Monaco. Ils perdent 3-1 alors que Monaco voit pas le jour sur le plan collectif. Il y a eu pas mal de matchs comme ça. Donc c'est plutôt bien. Après, dans le jeu, ils ont pas perdu le fil comme Angers, mais t'as quand même senti qu'à un moment de la saison, il y a eu un peu moins de prise de risque, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de ballons perdus sur des sorties de balles qui ont coûté cher. Après, nous, on va pas se plaindre qu'il y a une équipe qui cherche à jouer, mais tu sens quand même que le curseur a été ajusté au fil de la saison. Mais au vu de l'effectif, d'être quasiment maintenu à 2 journées de la fin, ça reste très très positif, sur le plan comptable en tout cas.
Florent, tu veux partir dans quelle direction? Au départ, je voulais te lancer sur Mohamed Bayo, parce que je sais que t'es pas ultra fan du joueur et que, mine de rien, ça peut aussi conditionner la lecture qu'on a d'une équipe comme ça, selon qu'elle a un très très grand attaquant ou un bon attaquant de Ligue 1. Mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent t'intéresser. T'aimais beaucoup Rachani, par exemple, en début de saison, alors qu'il est un peu moins performant aujourd'hui, mais qui a quand même ses 8 buts dans une équipe qui joue le maintien, c'est assez intéressant. Petit problème de gardien.
C'est le Souleymane Camara de Clermont, Rachani. Ouais.
C'est ça.
Même si c'est qu'il a fini par s'imposer un petit peu à un moment, ouais. Carrément. Ouais, petit problème de gardien aussi en effet, parce que leur gardien est à moins de 60%. Leur gardien, je parle, c'est la moyenne des deux quoi. Ils sont en dessous des 60% d'arrêt, donc ce qui est très très faible, même s'il est encore plus faible. Mais c'est vrai que la saison de Clermont, c'est un petit peu. C'est la seule équipe parmi toutes celles là qu'on évoque dans cet épisode qui a des statistiques qui ressemblent à celles des gros. De par son envie de jouer, Raphaël évoquait les sorties de balles travaillées, etc., les prises de risques. C'est la seule équipe qui est dans la première moitié de tableau en termes de ballons touchés. C'est la seule équipe qui est dans la première partie de tableau aussi en termes de pourcentage de pression réussie ou ratée plutôt par les adversaires. C'est-à-dire que ils sont pas faciles à presser. Les adversaires viennent les chercher parce que leur projet c'est d'aspirer et ensuite de jouer dans le dos. Donc il y a des petites choses qui font que t'as l'impression que par rapport à d'autres équipes, ils se sont mis plus de difficultés en fait, de par leur philosophie de jeu, ils sont montés comme ça. Et c'est vrai que au-delà de ce qui se passe sur le terrain, t'as l'impression que clairement c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est aussi une équipe, faut quand même le garder en tête, c'est quand ils montent. Alors Angers l'avait fait il y a quelques saisons, où ils étaient montés, ils avaient fait quasiment pas de transfert, ou en tout cas très peu dépensé. Clermont, cette année, ils ont dépensé zéro. Les années d'avant aussi, ils dépensent zéro.
Oui, Clermont n'a jamais rien dépensé quasiment dans son histoire en transfert.
Exactement. Même lorsqu'ils ont vendu Gerbich, c'était du coup il y a 2 saisons, ils l'avaient vendu 9 millions à Lorient. Merveilleux braquage d'ailleurs au passage. En tout cas, vu ce qu'a fait Gerbich depuis. Clermont n'avait pas réinvesti quoi que ce soit derrière. Donc c'est quand même un vrai exploit, je pense, que cette équipe réussissent à se maintenir au moins une saison en ayant cette manière à la fois de jouer sur le terrain et aussi de travailler à côté. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si Bayo s'en va et qu'ils en récoltent une somme? Est-ce qu'ils vont rester sur cette manière de faire ou est-ce qu'ils vont en changer? Je pense qu'ils vont rester sur cette manière de faire, mais je pense que pour eux, ça va être très très dur de se maintenir sur la durée. En revanche, ça peut être le bon moment pour eux de se structurer à côté pour être non plus une équipe qui va monter en Ligue 1 à un moment donné, puis repartir en Ligue 2 et du coup rester longtemps en Ligue 2. Peut-être que clairement, au sortir de cette période en Ligue 1, qui à mon avis sera pas infinie,
surtout avec
4 descentes l'année prochaine en effet, mais ça sera peut-être une équipe qui aura profité de ces 2 années pour vraiment se structurer autour.
Ils vont toucher les sous du CVC en plus là.
Ouais. Mais voilà, pour structurer le tout ce qui est sportif, se staffer peut-être dans certains domaines, et au moment où ils vont peut-être retomber en Ligue 2, être prêt, là par contre pour jouer la remontée immédiate et vraiment être prêt pour être compétitif après. Mais je pense que cette année-là, faut la prendre comme une belle saison, même si bon, comme tu le disais, Raph, ça part de manière très enthousiaste et puis après tu te heurtes un petit peu à la réalité du championnat, je pense.
À noter que je pense que leur président est l'un des plus malins qui soit pour ne pas perdre d'argent dans le foot, parce que non seulement ils dépensent pas, en plus les résultats sportifs sont bons, et j'ai envie de dire que même si jamais, genre si admettons il se dit bon, on a fait le maximum, qui dépense pas l'été qui vient, ça retombera en Ligue 2, ils auront quand même mis de l'argent de côté. Alors je dis pas que le mec va revendre et qu'il va uniquement penser à la plus-value économique, mais il y a tellement de clubs mal gérés sur ce plan-là, que bon, un club qui réussit à performer en jouant plutôt correctement au foot, sans dépenser des sommes folles pour des joueurs qui ne le méritent pas, mine de rien, c'est quand même assez à souligner. Après, est-ce qu'on le fait de manière cynique en se disant que le mec va partir et aura mis beaucoup de sous de côté, ou est-ce que c'est juste qu'il est un peu moins con que les autres, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même relativement rare que quelqu'un fasse plutôt des bons choix avec un budget limité.
Et puis je pense que même si Clermont descendait cette saison, enfin s'ils étaient la dernière, je pense même pas qu'ils auraient viré Gastien. Je pense qu'ils l'auraient laissé, parce que c'est lui qui fait tout depuis des années. Et qu'ils sont en Ligue 1, en Ligue 2, clairement, c'est, enfin, tant mieux qu'ils sont en Ligue 1, c'est grandiose pour la ville et le club. Mais je pense pas qu'ils seraient en dépression ou en panique si le club venait à redescendre. C'est comme Amiens ou comme Dijon. Pour moi, c'est des clubs, tu savais que ça allait redescendre à un moment parce que le...
Ou Nîmes,
voilà, c'est ça. Parce que tu savais. Bah, alors Nîmes, il y a d'autres problèmes, mais tu sais que le plafond existe quand même. Et qu'il est assez bas par rapport à d'autres clubs.
Donc, messieurs, l'appréciation.
On va voir. Des bons débuts en Ligue 1.
Un peu court.
Mais c'est difficile de donner des appréciations. Ils se sont maintenus, enfin quasiment. J'espère qu'il n'y aura pas de drame pour eux. Et puis il y a eu quelques bonnes choses. Je pense qu'il manque peut-être 2-3 matchs marquants dans leur saison. Après, les supporters ont dû en avoir dans leur tête, hein, mais je me souviens pas beaucoup de matchs où le jeu a été récompensé et qu'on s'est dit, waouh, quel match de Clermont. Il y a eu des matchs, mais c'est pas forcément leurs meilleurs matchs qui ont amené des victoires. Sur le plan du jeu, je veux dire, et des principes de jeu qu'on avait vus de Gastien en Ligue 2 notamment.
Florent, moi je dirais un truc genre volontaire, bon esprit, et... sous-entendu, bon, il peut pas faire énormément mieux, on va pas lui reprocher de pas avoir une mention très bien. Alors c'est bien, au moins il fait pas de mal, aux troupes, il tire pas la classe vers le bas.
Ouais, non, c'est ça, volontaire, bon esprit, et surtout avec des trucs qui avec des j'ai pas le mot, mais avec des problèmes, enfin pas des problèmes, mais ils se mettent en plus des difficultés, donc ça
ils
rend
ont pas
les résultats oui.
J'allais dire, ils ont pas la même trousse que les autres. Il y en a qui viennent avec tous les stylos de toutes les couleurs.
C'est ça, ils ont moins d'outils.
La calculette et tout, et eux, ils viennent avec une feuille blanche et un crayon à papier.
J'allais dire que c'était moi qui, je sais plus si c'était en cinquième ou quatrième, ai pris l'option latin. Tout ça pour avoir des 4 et me rajouter des heures de cours, et au final, j'ai été viré de l'option latin. C'est même pas moi qui l'ai arrêté parce que j'étais trop nul. Donc j'ai voulu faire du zèle, comme des relances sous pression face à des adversaires qui pressent bien. Et au final, je n'avais pas les cartes dans mon jeu. Comme dirait Chris Singleton sur Beansport, lui, il ne joue pas avec 52 cartes.
Est-ce que Johan Gastien a repris un carton rouge depuis qu'on lui a dit de plus prendre de cartes en rouge lors de l'entretien sur Copa Arena?
Je ne crois pas. Mais il prend des jaunes. Il prend pas mal de jaunes.
Ah, il a pas pris. C'était contre. Je sais plus. C'était contre Nantes là qu'il avait pris un rouge.
Ouais.
On lui avait parlé après. Il a pas pris de rouge depuis. Donc, faudra qu'on l'attrape à nouveau pour lui en parler.
On lui mettra un petit message pour le féliciter. Lorient 17e. 34 points en 36 journées. On arrive sur les équipes à moins d'un point par match, ce qui n'est quand même pas extrêmement glorieux. On pense quand même au cut de 40 et quelques points pour le maintien. Bon, là, clairement, on n'y sera pas cette saison. 8 victoires, 10 nuls, 18 défaites, 34 buts marqués, 62 encaissés, moins 28 de différence de but. Une spirale assez moyenne, et donc 3 points d'avance actuellement sur Saint-Etienne, premier barragiste. Raphaël, Lorient, Christophe Pélissier, ses joueurs, son football, qu'est-ce que ça te dit?
Déjà, je pense que, alors, le football a pas trop changé. C'est le même que la saison précédente. C'est le même que Pélissier pratiquait avec Amiens. Et, il en changera pas. Les gens au club savent que lui, il mise sur un football de transition et qui va vite vers l'avant en partant d'un bloc solide et compact. Après, la déception cette année, c'est plus au niveau des joueurs. À Lorient, parce que Terem Moffi fait une saison, alors il a marqué quelques buts, là, ces derniers temps. Il y a 8 buts quand même, je m'attendais pas à le voir à 8 buts, enfin à avoir autant de buts.
Ouais, c'était très mal parti, mais il en met, sur les 8 buts, il en met 4 depuis début avril.
Ouais. Dont le doublé contre Saint-Etienne qui en prend 6 au moussoir. Il y a eu cette grosse déception de se dire quand même que Moffi, qu'on voyait l'an dernier comme un attaquant qui pourquoi pas irait jouer avec un club d'Europa League, a finalement fait une deuxième saison très très moyenne en Ligue 1. Sur le plan individuel, Armand Lorienté, c'est intéressant. J'ai pas l'impression qu'il ait pris une dimension supérieure à celle de la saison dernière. Je m'attendais à ce qu'Enzo Lefebvre joue plus. Alors, il a quand même pas mal joué, hein, 23 titularisations, mais je pensais que ce serait le vrai meneur de jeu de cette équipe et qui serait indiscutable dans l'équipe. Et puis après, ils ont dû faire des trouvailles en cours de saison. T'as eu par exemple Léo Petro, là, qui était dans le groupe réserve, qui est monté. Il y a eu Ibrahima Koné qui arrive en cours de saison. Et puis c'est un autre club, un des nombreux clubs, et Flo en parlait tout à l'heure, qui a eu des problèmes de gardien et des gros problèmes de gardien. Et c'est d'ailleurs une très petite saison de Ligue 1 sur le niveau des gardiens. Hein, je sais plus quand la dernière fois j'en discutais sur Twitter avec des gens et je trouvais même pas 5 gardiens qui avaient fait une bonne saison dans le championnat.
Oui,
c'est un vrai problème. Alors que t'en as beaucoup dans le même club qui ont fait une mauvaise saison. Lorient, Angers, Bordeaux, c'est des clubs où t'as 2-3 gardiens parfois qui font une mauvaise saison.
Bah clairement, pareil, les deux. Certes, ouais. Clairement, ils ont fait le gardien, puis ils ont changé, puis ils ont remis le premier. Et là, Adrien Nardi, il y en a aucun des deux pareils qui s'impose.
À 3, ça a changé aussi en cours de saison.
Bah, 3, c'est Gallon qui est blessé. Hein,
ah oui, c'est ça. Ouais,
c'est ça. Mais il n'y a pas eu forcément, effectivement, de cas comme Mandrea. Où, bah, en fait,
on peut parler de Lille aussi. On peut parler de Lille où ça a changé. Lille, ça a changé de gardien en cours de saison.
Mais Lille, c'est un peu comme Angers. C'est-à-dire, le deuxième gardien est quand même meilleur que le premier. Même si Jardim a des défauts. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu changes et que le deuxième ne donne pas vraiment satisfaction, tu dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me redéjuge et je remets le premier? Mais que du coup, tu perds quand même un peu psychologiquement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est forcément, ça conditionne en partie la saison. Florent, Raphaël mentionnait les trouvailles du mercato hivernal. Il y a aussi Bonqué Innocent.
Oui, qui est pas mal.
Qui est arrivé pour
densifier le milieu un petit peu.
Je sais pas, je t'avoue que un peu comme Raphaël, en fait, ces équipes comme ça, qui n'ont pas des principes incroyables et dépendent pas mal à la fois de ce qu'offre l'adversaire et des individualités qui vont les tirer vers le haut. J'ai plus tendance à, du coup, me focaliser sur la progression ou la régression de certains éléments plutôt que sur le jeu en tant que tel, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le même jeu que l'an dernier, c'est juste que t'as un peu moins de joueurs pour te tirer vers le haut.
Ouais, il y avait une tentative d'évolution dans le jeu en passant à 3 derrière aussi en début de saison, si mes souvenirs sont bons, où ça n'a pas forcément très bien fonctionné, avec l'arrivée notamment d'Igor Silva qui avait été très coté pendant shortlist et puis qui finalement a fait une saison très moyenne, ou en tout cas on l'a pas spécialement vu briller cette année. Et c'est vrai que bon, quand t'es...
Ça joue encore à 3 derrière, hein, Lorient, ça joue souvent à 3 derrière encore.
J'ai plus vu en 4-1-4-1 sur les dernières là, journées quand même.
Contre Marseille, il jouait à 3 derrière.
Ok, mais j'avais vu contre Saint-Etienne, et ils étaient à 4.
Ils sont à moite-moite à peu près sur la saison. Là, je regardais en même temps les compos, tu vois, il y a marqué sur Ouscant qu'ils ont 12 fois en 5-3-2, 6 fois en 3-5-2, donc bon, ça fait quand même 18 matchs à 3 derrière. Et ils ont une quinzaine de fois 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, quoi.
Après, moi, la configuration que j'ai vue le plus souvent sur 2022, c'est le 4-3-3 avec mon conduit à Bergel le fait et devant l'orienté Koné Mofi quand tout le monde est apte et sur le terrain. Parfois, il y a Boigard qui pouvait aussi rentrer dans la rotation, Le Moine au milieu, des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu prends justement le milieu et l'attaque que je viens de citer, tu te dis ça peut quand même être assez sympathique et être un niveau très correct de Ligue 1, mais je trouve que c'est une équipe qui est pas mal plombée par la dernière ligne, la ligne défensive.
Ah ouais, j'allais dire ça, buts. C'est faiblard. Hein,
et c'est là que quand Reims a une charnière avec Woodfess, et même si je suis pas un immense fan de Woodfess, mais pourquoi pas avec Abdelhamid, là tu sais que tu peux voyager et que t'as quand même une base très solide, et j'ai pas l'impression que Lorient aujourd'hui ait cette base-là qui lui permette de vraiment jouer en confiance, etc., avec le gardien en plus qui n'aide pas non plus. Donc je pense que c'est aussi ça qui explique que Lorient se retrouve à cette 17e place aujourd'hui. Mais c'est vrai que au milieu et devant, bah, après évidemment j'étais tombé sur le bon match, mais le match contre Saint-Etienne, c'était très très agréable à voir. Et bon, Saint-Etienne avait ouvert pas mal de portes aussi, mais tu voyais un vrai potentiel d'animation entre le milieu et les attaquants où ça, il y avait pas mal d'automatisme et de complémentarité dans les mouvements, etc. Et c'est ce Lorient-là qu'on aimerait plus voir, mais je pense vraiment qu'il y a un problème de base défensive et de ligne def qui est pas au niveau. D'ailleurs, contre Marseille, je crois que Kraft a vu le match. la manière dont il donne le premier but, je crois que c'est Morel qui sous pression oui, craque qui... totalement.
Alors et... pour le coup, c'est pas un problème défensif, c'est plus oui, un là, problème de d'enflammade sur le coup où il s'est dit je vais arriver à m'en sortir et je m'en sors pas. Mais oui, c'est le secteur où c'est bah il enfin Gravier avait pas fait une saison non plus incroyable à Lorient.
Mais vous voulez que je donne les noms? Igor Silva, Ergo, Mendes, Morel, Petro, Le Goff, Loric qui a 3 matchs, j'étais passé à côté. Ouais, Laporte et Jens. Donc bon, c'est
pareil, Jens, il était arrivé, il y a on n'a pas spécialement vu grand-chose en tout cas, il y a pas de leader défensif dans cette équipe aujourd'hui.
Non, mais moi la saison prochaine, j'ai envie de voir le fait s'installer et de voir cette équipe pratiquer un jeu qui peut coller à ce genre de profil. Et l'orienté, il a quand même des vraies qualités, donc j'aimerais le voir plus présent dans le jeu que sur coup de pied arrêté. Et contre Sainté, par exemple, il a fait des super choses. Et ce serait bien de voir ces joueurs-là un peu plus s'exprimer, avoir peut-être un peu plus de chances de toucher le ballon. Alors c'est pas forcément facile, il faudra trouver des joueurs qui vont te permettre de peut-être avoir un peu plus le ballon et avec de la qualité sans en perdre trop. Des ballons, je veux dire. Mais il y a des vraies individualités. Après, bon, c'est cette partie-là du championnat, c'est qu'il y a toujours des effectifs avec des bons joueurs, mais collectivement, t'es en difficulté. C'est le lot de ces équipes qui jouent le maintien. Mais je pense que Lorient, qui est un club sur le plan structurel, l'histoire maintenant quand même un peu longue, qui est un club qui est amené à jouer plus entre 10 et 14 qu'entre 14 et 20. Selon moi, il devrait être devant Clermont, devant Troyes, il devrait être à la bagarre avec Montpellier, Reims-Brest. Pour moi, c'est de ce niveau-là, Lorient, sur le plan.
Bah, tu mets une meilleure charnière, tu mets la charnière de Reims, par exemple, je suis persuadé qu'ils font 10e, même avec une mauvaise saison de Mofi.
Hein. Ah, mais tu vois, ils ont un beau stade de foot, ils ont un beau centre de formation, ils ont des vraies installations, des structures, ils ont des gens en place depuis longtemps qui sont compétents, donc que ça joue le maintien et en plus à un total de points quand même famélique. C'est pas suffisant, je trouve, par rapport à la stature du club. Après, ça fait que 2 ans qu'ils sont montés. Pour moi, c'est un club qui a des bases beaucoup plus solides, même que les Saint-Et ou Bordeaux actuels, par exemple.
Et donc, 3 points d'avance sur les barrages. Virtuellement 4 sur la différence de but, qui est de plus 6 par rapport à Saint-Et, même si on est sur des sphères du classement où tu joues vite en 3.
Ils vont à Bordeaux, match mythique.
Oui, ils vont à Bordeaux.
Donc bon, voilà, c'est un match où on va encore se régaler. L'appréciation avant de boucler, messieurs, sur Lorient?
Insuffisant.
Oui, je rejoins Raphaël.
Voilà, c'est tranché, c'est un mot, c'est clair. On arrive sur la zone barragiste, où Saint-Etienne est 18e avec 31 points, 7 victoires, 10 nuls, 19 défaites, 42 buts marqués et 74 encaissés. Bravo à nos amis Stéphanois.
Heureusement qu'il y a 15 de moins que Bordeaux. Hein,
ouais, non, mais point Bordeaux, c'est le point Godwin des buts encaissés. Du coup, Saint-Etienne, qui est avec 3 points d'avance sur son premier poursuivant et 3 points de retard sur le maintien, mais Metz a une meilleure différence de but. Donc du coup, on peut estimer que les 3 points d'avance valent un peu moins que les 3 points de retard sur Lorient. Et la dynamique n'est pas positive, puisqu'il y a 3 défaites de suite. Raphaël, je te sens chaud pour
buter
sur les hommes de Pascal Duprat.
Saint-Etienne qui, du coup, alors pour l'instant on ne sait pas, mais jouerait un de ses 4 adversaires potentiellement en barrage, Ajaccio, Auxerre, le Paris FC et Sochaux, qui sont 4 équipes solides. Mais Ajaccio qui est un peu le contraire de Bordeaux.
Ouais, 18 buts encaissés.
Beaucoup, 19 encaissés 19. En 37 matchs. Ouais. 38 marqués.
Franchement, Ajaccio, petite parenthèse, je te laisse poursuivre sur Saint-Etienne, mais si t'es barragiste, si t'es le club de Ligue 1 barragiste, je pense que tu veux pas du tout jouer à Ajaccio. Ça doit être un enfer.
Alors, le format, c'est comment? Parce que ça change.
C'est aller-retour.
J'ai l'impression que ça a changé. C'est aller-retour.
C'est aller-retour.
Avec le retour pour le club de Ligue 1, à domicile. C'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais clairement, je veux ni jouer à Ajaccio parce que tu peux faire 0-0, 0-1. Ni Auxerre, parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Et que Furlan fait souvent monter ses équipes.
Ouais.
Les autres, je suis un peu
aussi,
moins convaincu, même si peut-être que je raconte n'importe quoi, parce que je suis quand même moins la Ligue 2 que la Ligue 1.
Sochaux, je pense qu'il peut y avoir une sacrée ambiance, tu vois. Et ça peut jouer quand même dans le barrage. Parce qu'il y aura du monde à Bonal. Ça peut être assez costaud. Après, oui, c'est un peu moins fort sur le plan d'effectif qu'Auxerre. Mais bref, oui, non, sur Saint-Etienne, après, quelque part, c'est le résultat des dernières gestions, des dernières années, en tout cas. Et c'est pas si surprenant de les voir finir là. Après, c'est tellement... en fait, il y a plusieurs saisons dans leur saison. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de donner une appréciation ou de résumer ça rapidement, parce qu'il y a la saison avec Puel, il y a le mercato de Puel, il y a la saison avec Duprat, il y a le mercato de Perrin. Il y a les joueurs qui se... Combien ils ont utilisé de joueurs cette saison en Ligue 1 Synthé? 39, je vois.
Oui, c'est ça.
C'est beaucoup.
Il y a deux exemples qui sont marrants. T'as Ignacio Ramirez, donc le joueur uruguayen qui arrive de, je ne sais plus
le quel fameux.
En Uruguay, j'ai oublié.
Le
national.
C'est pas raconté vidéo, en tout cas.
On l'avait fait pour un shortlist, on avait dit qu'il était pas bon. Il était pas bon. Et puis t'as Jean-Philippe Crasso qui était vraiment mais perdu pour le foot à Saint-Té et qui va à Ajaccio et qui va être un des 5-6 joueurs les plus importants dans la montée d'Ajaccio.
Et qui va sortir Saint-Étienne en barrage. Non.
Ouais, non mais c'est possible en plus. Donc c'est un peu, c'est très très bizarre comme saison. Il y a aucun fil conducteur, même depuis l'arrivée de Dupraz, il y a plein de choses qui ont changé d'une semaine à l'autre dans le discours, dans les hommes, dans la façon de jouer. Parfois ça joue pas du tout. Enfin c'est une saison qui n'a aucun sens, et le seul sens que ça peut avoir, c'est si ça descend, que ça va punir ce qui se passe depuis quelques années. Mais je pense que c'est l'équipe qui a vécu le plus de saisons différentes. Parce que Bordeaux, il y en a eu deux. Pour moi, Saint-Étienne, il y a 3 ou 4 saisons déjà dans leur saison.
Parce que c'est vrai que Florent, on a eu des changements de gardien avec l'arrivée de Bernardoni. On a eu des matchs plutôt sympas, des écroulements incroyables, on a eu du faux neuf, on a eu, de mémoire, je crois que c'est face à Paris, où Boudbouze joue numéro 6 pour sortir les ballons proprement avec Puel, des joueurs comme Maouchich, où c'est difficile de savoir vraiment quelles sont leurs qualités. Kolodziejczyk, que j'avoue qu'honnêtement, j'ai rarement vu un joueur avoir une saison de ce niveau-là. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment voir une Soki en Ligue Europa avec Nice, où j'ai l'impression qu'il y a 2 bourdes par match à tous les matchs.
Vous vous rappelez d'Etienne Green?
Mais en fait, on peut dire beaucoup de choses sur cette équipe et même sur le mercato. Donc, je sais pas. Toi, qu'est-ce qui te marque le plus comme point d'entrée, à part que, quand t'as tellement de choses à dire, c'est pas toujours bon signe.
J'ai envie de donner un chiffre. Je crois que j'ai vu passer tout à l'heure. Lorsque Saint-Étienne a mené au score, le pourcentage de fois où ils se sont fait remonter, à votre avis,
et ils ont... Ça doit être très haut. Je sais pas, 50.
Exactement, c'est 50%. Ah. Un match sur deux où Saint-Té ouvre le score et se fait remonter et sans doute perdre derrière. Je sais plus si ça finit par une défaite ou...
Comme contre Nice récemment.
Comme contre Nice, comme contre Marseille aussi. Ils avaient ouvert le score avant de prendre 4-2 à la maison. Lorient,
après, t'as aussi
après, où ils mènent 2-0, ils en prennent 6.
Mais ils remontent des scores aussi.
Oui, c'est vrai. Contre Bordeaux notamment, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Donc il y a vraiment ce problème-là, et ça revient à une chose, c'est que cette équipe, sur le plan défensif, est pas loin d'être catastrophique. Le gardien n'aide pas, ils ont eu des problèmes de gardien tout au long de la saison, Bernardoni n'a pas réglé le problème. Christophe l'évoquait, mais le symbole derrière, c'est Kolodziejczyk, quoi. En termes d'erreurs individuelles et de CSC ou de choses qui lui sont tombées, il a vécu vraiment une saison très très compliquée. Face à Lorient, c'est catastrophique, notamment sur le 6-2, et c'est sur des bêtises comme ça que Saint-Étienne perd le fil. Là, le match contre Nice en semaine, ils mènent 2-0, Nice ne fait quasiment rien de la mi-temps, ils sont tranquilles, tu reviens en deuxième moitié de match. Dès les premières minutes, quand Barre fait son rush dans la surface et marque en angle fermé, but que normalement Bernardoni ne doit, je pense, jamais prendre, tu sais déjà comment ça va finir, en fait. Tu sais déjà, à la 46-47e, alors qu'il y a 2-1, que ça va gagner côté niçois et qu'ils vont remonter. Je pensais pas qu'ils le feraient aussi vite, parce que je crois que c'est en 17-18 minutes, je crois, qu'ils mettent leurs 3 buts pour repasser à 3-2. Mais t'as cette capacité à avoir des défaillances à n'importe quel moment d'un match, et surtout à ne jamais réussir à survivre à un temps faible sans être sanctionné, sans prendre de but. C'est un petit point commun avec Bordeaux, dont on va parler après, mais c'est ça qui les plombe, alors que devant, tu vois, contre Nice, là encore, le Boudbouze faux neuf avec Bouanga et Nordin des deux côtés pour attaquer la profondeur, ça leur donne 3 ou 4 grosses occasions en 15-20 minutes de match. Et ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand t'as pas cette base et cette solidité, et que le moindre petit accro dans un match fait que tu t'effondres, tu te retrouves en effet à te battre pour être en barrage aujourd'hui.
Petit quiz, messieurs. Falai Sako a joué 7 matchs avec Saint-Etienne. Combien de points Saint-Etienne a pris sur ces 7 matchs?
Beaucoup, je pense.
Ouais,
je pense. 12.
Absolument, bien joué.
4 victoires.
C'est 12. Non, c'est je crois que c'est 3 victoires et
3 nuls.
Et le reste des nuls. Enfin quelque chose comme ça. Enfin,
donc il est presque invaincu, il a perdu qu'un match.
Ouais, en fait, il a ouais, c'est ça.
J'ai un autre quiz, Christophe.
Bon, attends, je vais juste dire que c'est la seule défaite, c'est face à Paris.
En plus, ouais, d'accord.
3-1 et sinon il y a nul face à 3 et Lille. Et également Strasbourg et victoire face à Clermont-Montpellier.
Falla Issako qui est censé revenir et finir la saison. Il était juste pour le match contre Nice et il est censé revenir. Donc peut-être que leur talisman leur sera bien utile pour les deux dernières journées.
Raphaël, vous voulez mon quiz ? Vas-y. Ouais.
Combien de points l'AS Saint-Etienne a pris avec Joris Gnagnon ?
Alors, Joris Gnagnon, mais...
Est-ce qu'il a joué ?
Il n'a pas joué, Joris Gnagnon.
Ben non, justement, c'est pour ça que je... Ouais. Et Bakary Sako, vous vous souvenez ou pas ?
Oui, oui. Non mais en fait on peut se faire un vous vous souvenez et puis dans 20 ans on pourra faire ou même dans 3 ans est-ce que c'était un vrai joueur de foot ou pas qui a joué des minutes avec Saint-Etienne, parce que là il y a des joueurs rien contre eux hein, ça mais genre Lucas Calauda qui a joué des minutes avec Saint-Etienne.
Ah, je voulais vous faire le test de est-ce que ce joueur existe ou pas.
Nelson Sissoko.
Oui.
Non, il existe pas, ça,
si. Il a joué 49 Sissoko, minutes. Ah ouais, c'est Alpha.
J'ai Alpha Sissoko sur. Mais oui, il y a quand même une douzaine de joueurs qui ont joué 150 minutes ou moins. C'est, je sais pas si c'est déjà arrivé dans un club de foot sur une seule saison.
Ouais, non, c'est, bon. Saint-Etienne a fait feu de tout bois. Mais c'est vrai que bon, Gnagnon, on n'en parle pas, mais ça reste quand même une des choses plus incompréhensibles parce que tu y rentres dans la pièce et tu fais non, en fait, tu n'es pas joueur de football.
Notons juste que Bouanga, même s'il est parfois exaspérant avec certains choix, et là je repense au match face à Nice, même si c'était à 0-0 et ça les a pas empêchés de mener au score, mais Bouanga fait quand même une saison 9 buts, 5 passes D dans ces conditions-là. Kazri met encore sa dizaine de buts. Kazri il aura peut-être d'ailleurs manqué pas mal sur la fin de saison où il a raté pas mal de minutes. Mais voilà, toujours quand même quelques joueurs à vocation offensive qui mettent leur but et font leur saison malgré tout.
Ça parlait de Bouanga à Lille, là, non ? J'ai entendu ça récemment.
Ouais, bon, il y a pas mal de monde à Lille, mais Lille aimerait bien le faire. Mais pour l'instant, il n'y a que Zedatka qui a.
Moi, j'ai un joueur que j'aime bien, c'est Nordin. Même si les stats sont pas toujours dingues, mais je trouve qu'il a des vraies, vraies qualités. Il peut conduire le ballon des deux pieds, il est percutant, il peut jouer à droite, à gauche, il a une vraie explosivité, et je suis curieux de voir si Saint-Etienne descend, où est-ce qu'il rebondira, mais je l'ai écrit dans l'article de la Ligue des Talents, là, sur les jeunes, parce qu'il est encore jeune, c'est un 98, je crois, c'est ça. Qui a commencé tôt, hein, qui a commencé en 2016, donc on le connaît depuis très longtemps, mais je le verrais bien, par exemple, tu vois, quand Brest va perdre Honora, par exemple, le voir sur un côté dans un club comme ça, ou même à Montpellier, qui manque un peu de talent sur les ailes et de percussion, ça pourrait être intéressant. Enfin, je serais curieux de le voir dans une équipe où il a du temps de jeu et une équipe qui est un peu plus stable collectivement.
De toute façon, Saint-Etienne risque d'énormément bouger cet été, tant dans l'effectif que côté direction, je crois.
Messieurs, Florent, l'appréciation. C'est compliqué, hein.
C'est compliqué.
Élève perturbateur.
Ouais, élève perturbé. Peut-être tout court, je sais pas. Mais non, oui, disons, c'est l'inverse de Brest, en fait. C'est-à-dire, ils peuvent être très créatifs, mais les fondamentaux sont pas maîtrisés, donc avertissement.
Ouais, on en a pas trop parlé, mais il y a des vraies belles phases de jeu parfois à Saint-Etienne.
C'est l'équipe qui est bonne en art plastique, c'est l'élève bon en art plastique et en
dans
musique.
La
mais
ça va quand les matières vont pas être coefficients, mais dès qu'il va y en avoir.
Mais le français maths, c'est compliqué.
Au lycée, ça va. Français maths, histoire, géo. C'est dur.
Voilà.
Mec, ça finira sculpteur. Et 19e, Metz, 28 points, 5 victoires. Et oui, bravo à Metz pour ces 5 victoires. 13 nuls, 18 défaites, 34 buts marqués, 64 encaissés, moins 30 de différence de but. Donc une série, mine de rien. Un nul, une victoire, 4 points sur les deux dernières journées. Florent, je te lance tout de suite parce que, sans trahir de secret, nos dernières discussions, c'était à la fois comment est-ce que Metz fait pour avoir 28 points et surtout comment est-ce que Metz a fait pour terminer à une bonne place la saison dernière, parce qu'il y a un moment ça pouvait même limite jouer la fin de l'Europe sur la Ligue Europa Conférence, parce que quand on voit ces joueurs là en fait on se dit où est la vérité, est-ce que ils sont vraiment pas bons ce qu'on voit cette saison, est-ce qu'ils sont bons, mais enfin voilà, quelle est l'explication de l'écart entre les deux sons, parce que là tu vois cette équipe jouer cette saison, enfin moi je me dis tu me dis qu'elle a 20 points, je te crois sans problème, parce que j'ai très peu de souvenirs de bonnes séquences à la fois collectives et individuelles.
C'est ça le paradoxe avec Metz, c'est que l'effectif a très peu bougé par rapport à la saison précédente, en tout cas c'est l'impression que j'ai, Les cadres sont toujours les mêmes, mais l'année dernière, ils étaient 10e après 38 journées avec 48 points, non, 47 points, pardon. 44 buts marqués, 48 encaissés. Et en plus, quand tu regardes les XG, ils n'avaient pas spécialement surperformé, quoi. Ils étaient à leur place, etc. Et ouais, cette année, c'est la débandade, quoi. C'est l'immense chute. Mais c'est vrai que, après, quand tu regardes un petit peu dans le détail, concrètement, collectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais c'est vrai que tous les joueurs qui, l'an dernier, tirent un petit peu l'équipe vers le haut, bah, cette année, sont pas bons du tout, ou pas là. On pense aux gardiens.
Pape Matarsar.
Un peu plus de problèmes de gardien de but.
Parce que Kidja, je crois, avait la meilleure stat l'an dernier. Ou quasi en Ligue 1.
Je crois aussi, ouais.
Avec Maignan.
Et Pape Matarsar, évidemment, Raphaël, au milieu de terrain. Boulaya était très bon aussi la saison dernière. Cette année, c'est très compliqué. Et je crois qu'en termes de stats, il pèse pas très lourd cette année, même s'il a bien joué le but. Bah, tu vois, il fait une mauvaise saison, de mon point de vue. Et finalement, avec 4 buts et 2 passes D, c'est le deuxième Messin le plus décisif sur l'ensemble de la saison.
Est-ce que la différence déjà dans la saison de Metz, c'est pas en bonne partie la Coupe d'Afrique des Nations?
C'était déjà compliqué avant. Mais après, est-ce que certains ont déconnecté à l'approche de ça? Je sais pas, ça n'a pas aidé.
Parce que quand on dit que tous les joueurs sont moins bons que la saison d'avant, c'est pas juste que les mecs ont tous relâché en même temps. Ou alors, il y a une explication. Tout n'est pas rationnel dans le foot, mais il y a dû avoir un truc qui s'est cassé, soit sur les entraînements, soit sur la gestion humaine, je ne sais pas, mais c'est quand même très très étrange, parce que c'est une équipe qui avait de la stabilité et de la continuité. Tu sais comment ça joue, pour le coup, Metz. Tu sais quel joueur va apporter quoi. Même sur les côtés, ils avaient des joueurs qui étaient capables d'apporter, là, Santonze et Delaine, c'est des joueurs qui cavalent et qui ont du volume.
Moi, je le vois pas tous les week-ends, mais j'aime beaucoup Delaine, personnellement. Et
bah, il va à Strasbourg,
ouais,
en plus.
Et Strasbourg a très bien joué. Je pense qu'ils l'ont chopé en fin de contrat, déjà.
Par contre, peut-être le souci de Metz, on a dit c'est très stable, c'est qu'ils se sont pas renforcés du tout cet été, quasiment. Est-ce qu'ils font venir un joueur qui aujourd'hui est titulaire? L'été dernier, je parle.
De Préville. De Préville.
Ouais.
C'est le seul qui renfort par rapport à la saison précédente, je crois. Et évidemment, Ça reste leur joueur le plus décisif sur la saison.
Oui, je sais bien.
Cinq buts et 2 passes D. Mais n'oublions pas quand même l'immense Didier Lamkelze, qui est arrivé cette
saison. Il est pas arrivé cet été, Didier.
Non, il est arrivé même.
Mais il faut juste une mention pour lui, parce que ça reste une légende de ce sport.
de la vie en général, je pense.
On invite les gens juste à taper son nom sur Google et à faire une demi-heure de recherche sur la vie du grand Didier, qui a 25 ans, donc il a encore le temps de faire beaucoup de choses dans le football. Mais oui, là, mine de rien, enfin moi quand je vois la défense, bon après il y a des problèmes de blessures, des choses comme ça, mais je me dis que si tout le monde est là, Santonze, Delaine, Brown, Kouyaté devant Oukidja, je comprends tout à fait que tu puisses terminer une saison dixième en ayant encaissé 45 buts, quoi. Et là, moi, c'est presque plus ça qui m'embête. Donc du coup, t'en as encaissé 64 que les 34 buts marqués. Alors c'est la plus faible attaque de Ligue 1, mais si t'as une bonne défense, ça peut quand même te permettre de te maintenir.
Donc, d'ailleurs, Reims en a mis 39, ils sont 12e, 3 en a mis 35, ils sont 15e, voilà quoi.
Ou alors la différence, c'est le départ de John Boy, j'en sais rien, je comparais les deux effectifs d'une saison à l'autre. Il était titulaire toute la saison à Metz, la saison dernière, John Boy. Il est parti en Arabie Saoudite, je crois.
Il me semble que qu'Antonetti l'a évoqué en conf de presse, ce départ-là qui n'a pas été pas forcément été remplacé. Parce je me trompe peut-être, mais je crois qu'il l'a évoqué il y a pas très longtemps.
Parce que je comparais les joueurs et c'est vrai que l'effectif a très très peu bougé. Il y avait Aaron Leiaisaka, j'avais complètement oublié qu'il était là la saison dernière, qui avait mis 4 buts. Mais sinon les stats étaient similaires, hein. Il y avait très peu d'attaquants qui marquaient. Le meilleur buteur c'était Boulaya avec 6 buts, il avait aussi 8 passes D. Après c'était Nian à 6, Soleil Aiseka à 4, Wagner à 4, Nguet à 3, parce que toutes les saisons Nguet met 3 buts. Et après c'était Thomas Delaine. Donc c'est très très étrange comme saison. Et après peut-être que l'anomalie c'était la saison précédente et pas celle-ci, hein, vu le niveau des joueurs.
C'est pas impossible.
Antonetti a peut-être fait un truc de malade la saison dernière sans qu'on s'en rende compte.
Avec Ognon aussi, qui était le coach de la saison.
Et là, retour à la normale peut-être, parce que c'est sur le plan de l'effectif, c'est quand même très très moyen. Hein. Je pense que c'est le plus faible effectif du championnat d'assez loin quand même.
Qu'est-ce que vous pensez en un mot du passage de Jemerson à Metz? C'est un peu gratuit, mais Blackenbauer restera un titulaire dans un champion de France qui n'était pas le PSG.
Je dis effectif le plus faible, mais pour moi, c'est quand même à la bagarre avec Clermont et Troyes. Je pense que c'est des trois clubs qui ont les moins bons effectifs. Mais non, je... qu'est-ce qu'on pense de Jamerson? Rien. C'est... Après, lui, il a joué, contrairement à Niagno. On peut lui accorder ça.
C'était juste pour le placer, parce que mine de rien, la carrière de Jamerson, c'est pas un crash nucléaire, mais c'est quand même pas... C'est quand même pas incroyable, sachant que l'expression crash nucléaire n'existe pas.
Disons que le moment, la dynamique, je suis champion de France dans une équipe qui est exceptionnelle et 3-4 ans plus tard, je n'arrive même pas à être dans une équipe qui joue le maintien en Ligue 1.
Et je suis viré, je pars avant même la fin de la saison, alors que je suis arrivé 2 mois avant.
Ça va très vite, alors qu'en plus il est censé arriver à son, il doit avoir 26-27 ans, Jamerson, là? Il a quel âge? Un peu plus, peut-être?
Peut-être un peu plus.
29. 28. Non, mais voilà, mais pour un central, 29. Il devrait être au sommet de son art. Quel que soit son art.
Avait-il eu un art? C'est la question qui se posera. On repense également à Wallace, autre légende de la défense centrale monégasque. Un mot d'appréciation pour Metz.
Au revoir.
T'imagines, t'es élève, tu reçois vraiment un au revoir de la part de ton prof. Tu fais ah bon.
Non, mais en plus, je dis ça, mais ils vont peut-être se maintenir. Donc, par contre, un barrage avec Metz, ça peut être exceptionnel. Parce que Antonetti sur la touche pendant un barrage. Bon, il sera toujours suspendu, peut-être, je sais plus où il est.
Non, il est revenu.
Ah, il est revenu,
Il était là contre Lyon, il nous a dû offrir une super séquence avec Depréville, en lui demandant d'aller presser. Depréville va pas presser, et évidemment, il s'énerve sur la touche. Et après, a raison, d'ailleurs.
Oui. En tout cas, il nous a donné une des meilleures séquences de la saison avec Sylvain Armand. C'était quand même fabuleux. Et j'étais tout à fait Team Antonetti sur ce moment-là. Et globalement, quand il faut choisir entre les deux, je pense qu'on est tous Team Antonetti.
Oui, surtout qu'Armand a reproduit ça.
Donc Raphaël a mis un au revoir assez laconique.
Mais ils vont se maintenir pour me faire mentir.
Non, mais réorientation en Ligue 2, quoi.
Après, le truc, c'est qu'ils vont au parc à la dernière journée.
Ouais, c'est ça, ça va être compliqué. Ça reçoit
après,
jeu, ça
quand ça dira truc. Que c'est pas toujours une mauvaise expérience.
En plus, le PSG va être en déglingue. C'est pour ça que je dis ça. Je sais pas du tout comment va se passer ce match. Après, Mbappé peut vouloir battre des records et du coup gagner le match tout seul.
Et vous imaginez, alors c'est vraiment un truc fou, ça n'arrive jamais, mais genre Pochettino met un jeune. Vous imaginez, ça serait incroyable, genre
il met juste pour envoyer des crottes de nez avant de partir, il met que des jeunes du centre pour le dernier match, comme quand l'OM va envoyer les minots au parc.
Oui.
Et Metz se maintient grâce à ça, et tous les autres, et Saint-Etienne fait un scandale d'état parce que le PSG a lâché le match, quelque chose comme ça.
Ouais, ça serait sympathique. Là, vraiment, on arrive au seul but de cet épisode. Tout ceci n'était qu'un long préambule pour parler de nos amis les Girondins de Bordeaux. 27 points en 36 journées. Toujours potentiellement sauvables en Ligue 1. 5 victoires, 12 nuls, 19 défaites. Roulement de tambour, 48 buts. Ce qui est quand même à souligner, parce que 48 buts, c'est autant que Nice qui est quatrième. Et surtout, les 89 buts encaissés, ça risque d'être un petit peu short pour les 100. Ça restera quand même, on ira au-dessus des 90, hein, peut-être même à 93-94.
Il y a des chances.
Florent, on est obligé de te lancer, c'est un peu ton moment, ça fait des mois qu'on attend ton analyse des Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette magnifique équipe?
Par où commencer? J'ai envie de dire par où commencer. C'est une équipe qui, de toute façon, Qu'est-ce que tu veux retenir? En fait, il y a, à part la finition et quelques séquences offensives qui se répétaient sous Petkovic avec des débordements côté gauche et des centres deuxième poteau vers Alice qui finissait, tu n'as pas vu un seul fil conducteur en fait dans la saison ou des choses sur lesquelles l'équipe pouvait se reposer quand ça allait pas. Et vu que ça allait pas très très souvent, pouvait se reposer sur rien. Et t'ajoutes à ça une équipe hyper fébrile sur des séquences qui sont normalement très simples pour des défenses. Je pense notamment au centre où ça a été catastrophique pendant la première moitié de saison. Qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver? Ils recrutent des joueurs supposément bons de la tête. Et sur la deuxième moitié de saison, tu continues d'encaisser des buts sur coup de pied arrêté ou sur centre. Ou alors les adversaires, et là je repense au match contre Troyes, qui est, je pense, une des bascules sur la fin de saison. C'était en mars, je pense, au mois de mars, quand Troyes vient gagner 2-0 à Bordeaux.
C'est le 6 mars.
Et Irles, je crois, en conférence de presse, dit « Oui, de toute façon, on avait vu que sur centre, maintenant, ils ont des grandes... » En gros, je crois que c'est ça qu'il dit. Hein. sur centre, on n'allait pas les battre dans les airs. Donc j'ai demandé à mes joueurs d'aller provoquer, d'essayer de rentrer dans la surface en fait. Ils sont allés chercher deux pénaltys comme ça. Un sur, je crois que c'est Mensah qui fait une faute et l'autre c'est Franck Sergio. Et voilà, plein de petites choses comme ça qui font que rien n'a bien tourné. Et bon, après les fameux matchs où un petit peu comme Saint-Etienne, tu mènes au score et tu te fais remonter, tu finis par te faire remonter. Et puis c'est vrai que sur la fin de saison, quand Guillon arrive, tu te dis bon. En fait, quand Guillon arrive, tu te dis bon, ok, c'était catastrophique défensivement. À Rennes, il défendait bien. Il va réussir
à Reims.
Il défendait bien. Il va réussir à faire en sorte. Il va améliorer la défense, mais tu vas te poser la question, est-ce qu'il va pas justement pourrir l'attaque en fait de l'autre côté. Et finalement, pendant quelques matchs, tu vois que c'est mieux. Tu prends un point contre Monaco, tu prends un point à Clermont, tu prends qu'un but dans ces deux matchs. Tu dis bon allez, c'est reparti. Et puis là derrière, t'as le fameux match contre Troyes que j'évoquais. T'as le déplacement à Paris où tu fais strictement rien. T'as la défaite à 9 contre 11, enfin à 11 contre 9 contre Montpellier pendant une mi-temps entière.
Et déjà contre Monaco, tu prends un point, mais t'es à 11 contre 10.
T'es à 11 contre 10 pendant une heure, je crois. Je crois que Tchouaméni se fait expulser à la demi-heure de jeu pour un deuxième jaune, ouais, qui tombe très vite.
Soutenir son club formateur.
Ouais, je pense. Mais du coup, ouais, à chaque match, il y a une histoire.
Et le match à Lyon, Flo, le match à Lyon est magnifique aussi.
Le 6-1 à Lyon.
Et le match à Nantes.
Ah, tout est beau, hein, tout est beau dans la saison, c'est exceptionnel. Non, mais il y a des histoires folles quasiment à chaque match. Mais pas de fil conducteur et de choses individuellement. Aucun joueur qui est sorti du lot. Il y a beaucoup de Bordelais qui parlent d'Onana. Mais Onana, on l'a surtout vu en début de saison. Et après, entre les blessures et le néant ou presque, c'était pas ouf. Adli s'est totalement perdu. Bref, je vais vous laisser, je reprendrai après.
Oui, parce que, et encore, là, on n'a pas réussi à mentionner le nom de Franck Sergio. Légende de la Ligue 1 et ses 50% de passes réussies à chaque match et son moteur qui dure 45 minutes et on n'a parlé que du terrain, on n'a pas parlé des supporters, on n'a pas parlé de la direction, on n'a pas parlé des finances.
Non.
Donc on a vraiment en plus mis la focale sur simplement une partie.
Oh, mais
plus ce qui pourrait potentiellement sortir un jour sur d'autres choses. Enfin voilà, c'est un club quand même assez rigolo. Il y a le mercato, il y a bref.
Mais tu peux faire une série Netflix. C'est dans 10 ans où tu vas revoir les mecs qui racontent ce qui s'est vraiment passé. Je pense que c'est comme la saison été, ce sera iconique. Il y a des déclats, il y a des choix, il y a Mbanyang qui a 3-0 à la mi-temps à Lyon, il dit je suis pas inquiet pour le maintien. Il y a 3-0 à la mi-temps, ils ont pas touché un ballon, il dit qu'il est pas inquiet. Et à la 46e minute, sur l'engagement, ils prennent un but.
Oui, et ce but incroyable d'ailleurs, celui-là.
Enfin, c'est quand même fou. Et je regardais du coup, alors je pense que c'est un truc qui est souvent le cas dans les équipes qui galèrent. Alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence, ou un peu des deux, mais Bordeaux a utilisé 37 joueurs cette saison. Saint-Etienne, c'était 39, je crois.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est 37, sans parler du mercato, où ça récupère Marcelo en N2, sans savoir...
qui pète dans les vestiaires.
Enfin, là, tu as pété? C'est toi qui as pété? Non, enfin, bref, c'est quand même dingue. Et puis, il y a la blessure d'Albert Ellis. Ça, je pense que c'est quand même un moment de la saison important. La blessure d'Albert Ellis, malheureux pour Bordeaux, mais à mon avis c'était le dernier espoir, c'était d'avoir Wang et Albert Ellis toute la saison pour quand même être capable de marquer des buts. Et depuis qu'Ellis s'est blessé, bah ça s'est tari.
Ouais, même si Ellis était déjà en train de calmer un petit peu la surchauffe qu'il avait eu à son arrivée, mais c'est vrai que c'était une bonne pioche sur les débuts. Mais oui, il n'avait pas marqué depuis 3-4 matchs, je crois, quand il se blesse définitivement. Mais ouais, ben pareil, Wang a totalement perdu. C'était quelqu'un qui était capable sur la première moitié de saison de marquer un but de un petit peu de nulle part. Je sais plus quel match, il claque une énorme frappe pied gauche et une énorme frappe pied droit derrière. Tu dis mais il sait faire ça.
Je sais pas Strasbourg. C'est pas Strasbourg à domicile là.
Je sais plus, mais c'est vrai que Strasbourg c'était un des rares matchs réussis. Mais Strasbourg avait été particulièrement mauvais aussi en termes d'équilibre défensif. Ils font, je pense, leur pire mi-temps de la saison à ce niveau-là face à Bordeaux. Mais et encore, ils ont failli revenir alors que tu avais 2-3 buts d'avance. Donc ça aussi, c'est un facteur important. Mais Christophe, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ce que tu as vu de Bordeaux? Ça m'intéresse.
Bah, en fait, j'ai pas de questions à poser. J'ai pas de... Je sais pas quoi penser. Non, je ne sais pas. Après, le truc, c'est qu'on parle tellement de Bordeaux entre nous. C'est un peu un fil rouge de nos conversations. On parle autant de Bordeaux que de que du reste de, du football mondial. Non, si, un truc à dire, ça n'a rien à voir directement avec Bordeaux, mais j'en ai marre des joueurs qui ne célèbrent pas alors que leur club est dans une situation difficile.
Et donc, Kouateng,
je suis très content que Kouateng, enfin que Bordeaux ait perdu le match où Kouateng n'a pas choisi de célébrer face à Nantes. Et je suis très content que Saint-Etienne ait perdu alors que Youssouf n'a pas célébré un but qui pourrait potentiellement faire permettre à Saint-Etienne de faire un pas vers le maintien juste parce que ça condamnait Bordeaux. Voilà, pour moi, on est sur une hypocrisie. S'ils le pensent vraiment, tant mieux pour eux. Mais à un moment, tu joues quand même pour
moi,
un club.
C'est ça. Moi, je trouve ça quand même vexant quand t'es le club dans lequel ils jouent actuellement.
Oui, c'est ça. Surtout que t'as un truc à jouer, quoi.
Ça va, quoi. Tu joues un truc. C'est pas de ta faute si ton club formateur a pris 27 points et 89 buts en 36 journées.
Oui, totalement. En plus, tu l'as pas quitté dans des conditions, enfin, bref.
Après, ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça un peu dommage. Même moi, je suis un coéquipier, le mec, il marque un but super important. Par exemple, le but de Kouateng, j'ai pas compris. C'est un but hyper important. Je pense que le Bordeaux a besoin d'énergie positive et d'enthousiasme pour aller chercher des points, et il met un but qui aurait pu être décisif.
En plus, il marque jamais.
Il marque un beau but. En plus, c'est un beau but. Ouais. Pied gauche, en lucarne.
C'est son deuxième but pro, il me semble. Et pareil pour Youssou, je crois que c'était aussi le deuxième but pro.
Oui, c'est ça, je crois, en effet.
C'est pas pour autant qu'on va les détester humainement, mais c'est vrai que c'est des trucs que je comprends pas trop. Ce côté un peu trop... C'est pas des acteurs, mais c'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est un peu... Disons que s'il y avait des gens qui... Si personne regardait le match, est-ce que tu continues? Tu ferais quoi ça, quand même?
Non, je ne sais pas. Florent, l'année prochaine, quelle division pour Bordeaux, si tu avais un pronostic à faire?
Est-ce qu'ils peuvent encore se maintenir?
C'est là qu'il y a plusieurs possibilités. Hein. On est vraiment sur un éventail qui peut aller de la Ligue 1 ou
N3. T'as deux matchs théoriquement jouables.
Oui, t'as deux matchs théoriquement jouables. La difficulté pour toi, c'est de gagner les deux. Et que Saint-Etienne... ce que je veux dire, c'est que t'es obligé de... Le seul résultat où ça fonctionne et où tu peux revenir, c'est tu gagnes les deux. Il me semble, en tout cas.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Sauf si Saint-Etienne perd deux fois 14-0. Quoi.
Ouais, voilà.
Il n'y a que 7 buts d'écart.
Mais si c'est qu'une victoire et un nul de Saint-Etienne... défaite et un nul, à moins qu'ils en prennent 7, ça va être compliqué à remonter, quoi. Donc, ça va se jouer... alors, on voulait pas trop parler des matchs à venir, mais ça va se jouer sur cette 37e, parce que t'as Saint-Etienne. Je pense que si Saint-Etienne doit valider son maintien, c'est sur ce match-là. Parce que après un Nantes à la dernière journée, j'ai pas l'impression que les Nantais, vu ce qu'ils ont fait contre Rennes, aient envie de laisser filer devant leur public. Je pense qu'ils vont vouloir fêter la Coupe de France jusqu'au bout. Donc, je suis pas sûr qu'ils laissent filer face à Saint-Etienne. Et Bordeaux, ça va être contre Lorient que tu vas tout jouer. Mais oui.
Hein, je vais faire une confession, passé. Florent.
Oui.
Là, tu me fais une analyse sur les chances de maintien en Ligue 1. Moi, vraiment, ma question dans la tête, c'était est-ce que Bordeaux sera en Ligue 2 ou en N3? Non. À aucun moment dans la formulation de ma question, mais en fait, j'ai laissé la porte ouverte. Mais à aucun moment, j'ai imaginé que Bordeaux puisse rester en Ligue 1. Potentiellement, oui.
Je te faisais le calendrier, mais je pense que ça va repartir en Ligue 2.
Ligue 2.
Mais il y a aussi un scénario, c'est la double relégation sportive et administrative, où tu te retrouverais en national. Celle-là aussi, elle est possible, il me semble. Donc, t'as ces deux choses-là qui sont possibles. Donc, on va voir. De toute façon, la seule certitude, c'est que même après la 38e journée, la saison de Bordeaux ne sera pas finie. Et ce ne sera pas forcément pour un barrage.
Et puis, de toute façon, si les gens s'ennuient, refaire tous les articles sur Admar Lopez, les tweets faits à droite à gauche, les commentaires après le recrutement en janvier, il y a toujours moyen de se faire des archives extrêmement drôles autour
de nouveau Luis Campos.
Voilà, tout ce qui a été mis de positif sur ce qui gravite autour des Girondins de Bordeaux. Messieurs, pour conclure cet épisode, la dernière appréciation des deux correcteurs, des deux professeurs principaux de la classe pour Bordeaux.
Réorientation urgente.
Je pense que le verdict, c'est qu'il faut trouver un nouvel établissement pour l'année prochaine.
Ouais, je pense que j'aurais mis 3 petits points. Je l'ai déjà fait une fois sur une copie. Mettre juste 3 petits points. Qu'est-ce que tu veux?
Quel est votre
projet? Toi-même, tu le sais. J'avais demandé 4 trucs. Le mec, il m'en avait fait un. Je sais très bien. Le foutage de gueule est dans le rendu, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci, messieurs. pour cet épisode très long, très riche sur la deuxième partie de tableau d'un peu plus d'une heure et demie. Là, on est dans la fin du temps additionnel. Là, c'est la quatrième minute d'arrêt de jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la première partie de tableau, Florent,
a priori. Absolument. C'est ça.
Bon, bah, c'est parfait. D'ici là, il restera une journée, donc on y verra un petit peu plus clair sur les chances de chacun, et puis ça changera pas mal de choses pour l'avenir de ces clubs, là aussi. Mais ça changera pas tout ce qui s'est passé depuis la reprise mi-août. Merci de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonne fin de semaine à tous et à bientôt.
Salut.
Ciao.
Cordialement.